Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie tout d'abord de votre présence pour ce débat que la Bibliothèque publique d'information organise en partenariat avec les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Ce soir, en fait, nous allons parler des catastrophes naturelles et de la gestion du risque. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Michel Alberganti, qui est producteur de l'émission Sciences publiques à France Culture, et deux intervenants que je vais lui laisser le soin de présenter, Romain Huret et Didier Torny. Merci à vous.
Oui, bonsoir. Merci d'être venu assister à cette conférence. Je vais vous présenter effectivement nos deux intervenants, tout juste après avoir fait une petite introduction à ce dont on va parler et débattre ensemble ce soir, puisqu'il s'agit, comme on vient de le dire, des catastrophes naturelles. Pourquoi parler des catastrophes naturelles et la gestion du risque? Ça peut paraître un sujet peut-être étrange du fait qu'il s'adresse, qu'il concerne des choses qui ne sont pas très agréables. Enfin, c'est une très vieille histoire, sans remonter au déluge, quoi qu'on pourrait, en fait. On peut constater que les catastrophes sont vraiment récurrentes au cours de l'histoire de l'humanité, mais que l'attitude que l'on a vis-à-vis d'elles a beaucoup changé. Si on se réfère à de très vieilles catastrophes, qui sont par exemple, pour les plus célèbres, Pompéi ou bien la peste noire, on n'imagine pas qu'à l'époque il y ait eu de véritables mouvements pour se retourner contre les volcanologues ou les médecins pour leur faire porter une part de la responsabilité dans le nombre de morts, alors que le nombre de morts a été très important. En Europe, je sais pas, vous vous souvenez sans doute des chiffres, c'est un quart de la population qui a disparu, victime de la peste de 1347. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette réaction que l'on avait à l'époque, qui relevait d'un sentiment de fatalité, de destin, voire, et c'était assez pratique, d'une espèce de châtiment divin, parfois. Donc, tout cela mettait l'homme en dehors du jeu. Et ce qui s'est passé, et qui montre que les choses ont bien changé, c'est un exemple très récent, par exemple, le séisme d'Aquila en Italie, où on voit que 7 personnes sont accusées d'homicide involontaire après cette catastrophe qui a fait 300 morts et 25 000 sans-abri. Et pourquoi sont-elles accusées? Parmi elles, d'ailleurs, il y a 6 sismologues. Ils sont accusés d'avoir proféré avant la catastrophe des messages trop rassurants pour la population. Donc en réalité, faute d'avoir prévu ou pour s'être trompé sur les prévisions, les voilà accusés par la justice et donc devant un tribunal. Alors on peut s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux périodes, une période de fatalité et puis période accusatoire aujourd'hui, période où on demande des comptes aussi bien aux scientifiques que évidemment aux autorités et aux hommes politiques. Alors peut-être ce qui s'est passé, c'est que justement l'homme aujourd'hui est quand même responsable d'une part des catastrophes qui lui arrivent, grâce au pouvoir qu'il a acquis au cours du dernier siècle essentiellement. Et c'est donc, d'ailleurs on va peut-être parler aussi des catastrophes qui sont liées à l'homme et non pas uniquement celles qui sont dues à la pure nature. Et ce qui a changé peut-être, c'est que l'homme aujourd'hui se sent d'une certaine façon un peu comme Descartes l'avait dit, mais à l'époque, comme un objectif à atteindre, un peu comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut détruire la planète, à partir du moment où on a un pouvoir, par exemple, qui va jusqu'à ce fameux réchauffement climatique, on peut imaginer que c'est le signe d'un pouvoir de l'homme sur la nature qui est pas très compatible avec le fait que la nature, parfois, se retourne contre l'homme et finalement nous inflige des catastrophes. On a la sensation, plus ou moins confuse, que ce n'est pas normal et qu'il faudrait trouver des solutions pour les éviter. Alors peut-être qu'on va justement pas mal aborder cette question de la perception du risque. Pourquoi d'un seul coup ces risques deviennent insupportables? Pourquoi on va même jusqu'à imaginer qu'il ne doit plus y avoir de morts, en tout cas parmi les soldats, lors d'une guerre, hein, ce qui est aussi un changement très très fort par rapport aux guerres passées. Alors là, dans ce cas-là, on peut évidemment trouver que c'est une bonne évolution, mais peut-être que ça signifie des choses et que nos deux invités, nos deux participants ce soir vont pouvoir nous éclairer sur ces évolutions. Donc nous recevons Romain Huret, qui est historien, spécialiste des États-Unis à l'époque contemporaine, maître de conférences à l'université de Lyon 2, parce que c'est toujours juste, oui, ce n'est pas vrai, et donc auteur de ce livre « Katrina 2005, l'ouragan, l'État et les pauvres aux États-Unis », qui est une analyse très, très intéressante, très détaillée, puisque tout le livre est consacré à cette crise et à ses conséquences et aux découvertes, d'ailleurs, que ce drame a pu faire au niveau sociologique aux États-Unis. Nous recevons également Didier Torny, qui est sociologue, lui, chargé de recherche à l'INRA et directeur de Réseau Travail Marché État. C'est bien cela ?
Risque Travail Marché État.
Qu'est-ce que j'ai dit ? Réseau Risque, pardon, Risque. Risque Travail Marché État, sous l'acronyme de RITME. Très bien. Et donc, il est l'auteur avec Francis Château-Renaud de Les Sombres Précurseur, avec un titre entremêlé dans celui-là, et qui dit « Une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque ». Alors, on va s'organiser comme ça. Vous allez écouter nos deux intervenants pendant une dizaine de minutes chacun. Ensuite, on débattra un petit peu tous les trois, si j'ai des questions à leur poser. Et ensuite, vous pourrez effectivement poser vos questions et débattre directement avec eux. Donc, je cède tout de suite la parole à Romain Huret.
Merci beaucoup pour la présentation et l'introduction des débats. Je vais être rapide, hein, parce que je crois que l'intérêt de ce type de débat, c'est vos questions et le débat avec, bien évidemment, le public. Très brièvement, expliquer le livre et expliquer ce que j'ai voulu faire avec ce livre qui était, je me sens un petit peu étranger, paradoxalement, au débat, parce que je ne suis pas un spécialiste des catastrophes. Au départ, je suis un spécialiste de la pauvreté, des questions sociales. Je travaille sur l'histoire de la pauvreté, l'histoire des questions sociales et l'histoire de l'État aux États-Unis. Et c'est un peu par hasard que j'ai été amené à écrire ce livre dans une collection très particulière, hein, qui est une collection des éditions de l'HESS, qui porte sur des phénomènes très, très contemporains et qui cherche à comprendre des clés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et lorsque j'ai, comme un simple citoyen, hein, comme vous, il y a 6 ans maintenant, lorsque j'ai vu les images de Katrina, lorsque j'ai entendu journalistes, commentateurs, hommes politiques développer leur propre explication du drame, j'ai été très frappé par une chose, c'est les discours irrationnels, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait un discours irrationnel qui était très très présent et qui visait à dire ce qui s'est passé est naturel, avec beaucoup de guillemets, c'est la main de Dieu, l'acte de Dieu, dans une société où la religion est très présente et les dispositifs religieux sont appelés, bien évidemment, à expliquer la catastrophe. Et je, comme tout le monde, j'ai été frappé de George Bush fils, appelant les concitoyens à prier le lundi soir, alors que la ville est inondée, que c'est une catastrophe, que sa propre administration nie. Et il appelle à la télévision américaine, hein, les citoyens américains, à prier avec lui pour les gens de la Nouvelle-Orléans. En France également, en Europe également, et dans beaucoup de discours intellectuels, voire aux États-Unis, il y avait aussi un discours irrationnel qui visait à dire ce qui s'est passé, c'est l'incompétence d'un homme, l'incompétence d'une administration, l'administration de George Bush. Et c'est pas précisément parce que j'avais travaillé sur les questions de pauvreté, sur le rôle de l'État, sur les sphères d'intervention de l'État, que ce discours irrationnel m'a profondément agacé. Et l'idée du livre, au départ, a germé de cet agacement. Et ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre, c'est montrer qu'au contraire, tout cela était parfaitement rationnel. Tout ce qui s'est passé dans la longue semaine de Katrina, hein, pendant ces 10 jours des premières alertes jusqu'à l'évacuation finale de la ville, tout cela était en quelque sorte prévu, était germé dans un dispositif structurel adopté aux États-Unis à différents échelons de pouvoir, à différents échelons de la société. Et en quelque sorte, cette catastrophe-là était annoncée depuis pas mal d'années. Il suffisait simplement de lire les signaux et à un moment ou à un autre, le dérèglement allait s'opérer. Alors pour comprendre ces dérèglements et comprendre ce qui s'est passé, je voudrais partir des rumeurs, comme je l'ai fait dans le livre, des rumeurs dans la ville. Et pendant, moi, ça m'a beaucoup intéressé en tant qu'historien, parce que je trouve ça toujours très intéressant, les rumeurs, hein, au moment des catastrophes et au moment des crises, il y a une série de rumeurs qui apparaissent. Et depuis quelques temps, anthropologues, quelques historiens, des sociologues également, ont commencé à prendre au sérieux ces rumeurs. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas irrationnelles. Elles peuvent apparaître aberrantes, comme ces gens qui vont dire que c'est un complot des élites blanches qui ont cherché à supprimer, à détruire la Nouvelle-Orléans. Donc ces rumeurs peuvent paraître choquantes au premier abord, mais il y a, je crois, derrière ces rumeurs, derrière ce qu'on peut entendre, des éléments de rationalité. Et ce sont ces éléments de rationalité que j'ai cherché à comprendre à partir de trois types de rumeurs, et je vais très vite, hein, parce que le temps qui m'est accordé est court. Il y avait tout d'abord des rumeurs sur, dans la ville, hein, je parle de témoignages oraux et de témoignages de gens qui ont été évacués ensuite et qui ont expliqué ce qu'ils ont vécu pendant les 10 jours de l'ouragan. Il y avait des rumeurs tout d'abord sur l'invisibilité de l'État et des pouvoirs publics. C'est extrêmement frappant, et tous les gens de la Nouvelle-Orléans, même ceux qui sont partis de la ville, se souviennent de cela. L'idée que les bus de la FEMA, qui est l'organisation en charge des catastrophes naturelles aux États-Unis, étaient visibles à tel endroit, alors qu'ils n'apparaissaient pas. Des bus sur la présence des agents de la FEMA à tel endroit, on les a vus à l'angle de telle ou telle rue, et ils n'apparaissaient jamais. Et donc on va avoir pendant plusieurs jours des rumeurs sur l'apparition des soldats, des rumeurs sur l'apparition des gens, des membres de la Croix-Rouge, des gardes-côtes, toutes ces rumeurs qui apparaissent sur l'invisibilité, enfin la visibilité et l'invisibilité de l'État et des pouvoirs publics. Deuxième rumeur qui apparaît également, le complot. Et dès les premiers jours, dès les premières heures de l'ouragan, on croit à un complot. On croit à un complot des élites blanches de la ville, j'en ai déjà parlé, qui se sont accoquinés avec les industriels de la ville, les élites politiques blanches, en cheville avec les grands industriels de la ville, et qui ont décidé, qui ont utilisé l'ouragan comme prétexte pour faire disparaître les quartiers pauvres et les quartiers noirs de la ville. Et il y a une rumeur qui apparaît au début du mois de septembre dans la ville. C'est une réunion secrète à Houston, au Texas, donc à quelques centaines de kilomètres de la Nouvelle-Orléans, des hommes d'affaires et du maire de la ville, pour redéfinir Nouvelle-Orléans après Katrina. Et le plan de reconstruction prévoit l'éradication des quartiers pauvres et des quartiers noirs pour créer ce que la rumeur appelle très vite un Disneyland pour touristes. On va blanchir la ville et on va en faire ce que les hommes d'affaires rêvent depuis longtemps, une ville blanche, où on aura simplement quelques noirs qui joueront du jazz et qui amuseront les touristes. Donc deuxième rumeur, très importante je crois, cette rumeur d'un complot et cette idée qu'il y a une collusion entre hommes politiques et hommes d'affaires. Troisième rumeur, c'est le départ des personnes en charge de la sécurité publique et personnes en charge de l'autorité publique. Et on va assister à toute une série de rumeurs, plus ou moins fondées, sur le départ des forces de police, le départ du maire de la ville, qui également est censé avoir disparu à plusieurs reprises, alors qu'il reste dans la ville, hein, mais on le dit sur le départ, on l'a vu à tel endroit, on l'a vu à Washington, on a vu des policiers dans d'autres villes, à Houston, on a vu des policiers voler des voitures. Donc toute une série de rumeurs comme ça. Et vraiment pour finir, qu'est-ce que ces rumeurs disent? Je crois qu'elles disent trois choses, et c'est là-dessus que je voulais y venir, trois choses qui sont ancrées profondément dans une histoire de l'État américain, dans une histoire des politiques sociales aux États-Unis et une histoire des élites américaines depuis une cinquantaine d'années. La première chose, et je reviens à l'invisibilité, c'est que progressivement, les pouvoirs publics, les autorités ont disparu, sont devenus invisibles. Et un quartier dont on a beaucoup parlé, le Ninth Ward, le quartier pauvre de la ville, progressivement, les pouvoirs publics, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la voirie, dans le domaine de la santé, ont disparu. Donc en quelque sorte, en évoquant cette invisibilité de l'État, on ne faisait que revenir à une invisibilité que les citoyens eux-mêmes ont vécue depuis de très très nombreuses années. Le deuxième élément important, c'est l'hypothèse du complot, qui est très ancienne dans la ville et qui renvoie, je crois, à une méfiance très forte de la part des citoyens et du tissu associatif, du mouvement social de la ville de la Nouvelle-Orléans vis-à-vis des élites politiques et des élites industrielles. Et on pourra en parler pendant la discussion, mais il y a depuis une quarantaine d'années un mouvement qui est très fécond aux États-Unis et qui, à la Nouvelle-Orléans, et qui est né d'une autre catastrophe, l'ouragan Betsy en 1965, qui est un mouvement de justice environnementale et qui vise à obliger les pouvoirs publics, obliger les industriels à respecter un minimum de normes écologiques, de normes environnementales pour sauver la ville. Et depuis 40 ans, c'est un combat perdu d'avance pour ces associations, mais on va voir au moment de Katrina ressurgir de vieux débats sur les dispositifs de prise en charge, les dispositifs d'aide en cas de catastrophe, et l'hypothèse d'élite qui n'aide pas, d'élite qui complote dans le dos des citoyens, refait bien évidemment surface en 2005. La dernière chose, la rupture du pacte social, je crois qu'elle est annoncée depuis très très longtemps aux États-Unis, non seulement à l'échelle locale, à l'échelle de Katrina, mais également à l'échelle du pays tout entier. C'est un pays qui, depuis 40 ans, il faut insister sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité dans un pays, hein, si c'est depuis 40 ans, c'est qu'avant les dispositifs d'aide sociale existaient, qui a démantelé toute une série de dispositifs sociaux à l'échelle nationale et qui a eu l'impression tout à fait incroyable que ces dispositifs la disparition des dispositifs sociaux n'allait rien provoquer, allait au contraire bénéficier à l'ensemble de la population dans une application terrible de discours néolibéraux. Et ce qui m'a beaucoup frappé après Katrina en 2005, c'est de voir réapparaître des mots comme pauvreté, des mots comme famille à bas revenus, un mot que les sociologues aiment beaucoup, qui est un mot de leur jargon, mais qui se diffuse parfois dans la presse, le mot d'underclass, cette catégorie de citoyens abandonnés, totalement à l'écart de tous les réseaux politiques, éducatifs et sociaux. Et tout d'un coup, tout ça est réapparu au lendemain de Katrina de façon surprenante pour des politiciens, pour des intellectuels, pour des spécialistes des catastrophes qui ont redécouvert ce qui s'était passé. Et juste pour donner sans doute l'exemple le plus frappant de ce délitement des dispositifs sociaux à l'échelle nationale et locale, et pour conclure, un an avant Katrina, il y a un projet que toute la population avait entendu parler en 2004, qui est le projet PAM, qui était une répétition dans la ville d'un ouragan, le grand ouragan, the big one, celui qui va arriver. Donc, Katrina, un an à l'avance, faute de crédit de la part du gouvernement fédéral, la simulation de cet ouragan et la coordination des dispositifs d'aide est annulée. On est juste un an avant Katrina. Mais la seule conclusion que les citoyens de la ville en ont tirée, c'est qu'en cas de grand ouragan, au bout de 36 heures, je dis bien 36 heures, une journée et demie, les services d'assistance locaux seront dépassés. Et donc, au bout de 36 heures, c'est à l'État fédéral américain de prendre la relève. Donc, même si le projet avait été avorté, c'était la seule conclusion qu'on en avait tirée, 36 heures après 36 heures. Et si vous regardez la chronologie que j'élabore dans le livre, ce qui est très intéressant, c'est que ces citoyens qu'on a dit irrationnels, inquiétants, etc., ils ne réclament pas l'aide du gouvernement fédéral immédiatement. Ce n'est pas ce que disent beaucoup de conservateurs américains ou beaucoup de religieux en disant « on a créé une génération d'assistés qui passe son temps à réclamer l'aide de l'État ». Ils ne le réclament pas tout de suite, ils le réclament au bout de 36 heures, 48 heures. Et quand ils sentent que les gardes-côtes, les pompiers, les forces de police sont totalement dépassés par ce qui se passe et donc réclament l'application d'une rationalité qui avait été mise en œuvre et qui valait ce qu'elle valait, on pourra en débattre après. Mais je crois que, et pour conclure, on voit bien comment autour de cet événement totalement irrationnel se nouent des rationalités politiques, sociales, culturelles très profondes et en quelque sorte, et c'est la conclusion du livre, tout préparer les États-Unis à affronter une catastrophe comme Katrina. Et je crains malheureusement que tous les préparent à en affronter d'autres de ce type. Et malheureusement, ils ne seront pas les seuls. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup. Donc maintenant, la parole est à Romain. Pardon. Si Didier Torny, c'était fatal. Il fallait la faire. Voilà. Donc Didier Torny pour une dizaine de minutes.
Entendu. Donc moi, je vais repartir de beaucoup plus loin. Pour deux raisons. D'abord parce que l'ouvrage que j'ai écrit avec Francis Châteaureno date de 99, mais j'ai tendance à penser qu'en dépit du caractère très contemporain des analyses sociologiques, il est toujours valide et il sera valide pour un siècle ou deux. Partir de plus loin parce que l'une des questions sur lesquelles nous avons travaillé, c'est la question qui a un rapport avec la catastrophe, qui est la question de l'alerte. Et en gros, à chaque fois qu'une catastrophe de ce type arrive, et Romain Vray l'a rappelé à propos de l'exercice de l'année d'avant, il y a toujours des personnes, des institutions, des collectifs, des groupes pour dire « j'avais prévenu et on ne m'a pas entendu ». Et l'idée, c'était de prendre au sérieux ces personnes, c'est-à-dire de ne pas considérer qu'il s'agit simplement d'un discours rétrospectif qui permettait évidemment d'apparaître comme... celui qui a dit la vérité mais qui n'a pas été entendu, qui est la figure essentielle de Cassandre. Hein. Cassandre dit toujours la vérité, mais n'est pas cru. Pour prendre au sérieux ces personnes, et on a fait ce travail-là à l'époque sur trois dossiers qui étaient en cours de gestation au milieu des années 90, donc l'amiante, le nucléaire et la vache folle. Chacun de ces dossiers se déroulant ensuite, et on a cherché à suivre différents sous-dossiers à l'intérieur de ces dossiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alerte? C'est une question absolument essentielle. C'est l'émission d'un message qui s'adresse à une personne censée pouvoir y répondre et qui signale l'existence d'un phénomène en devenir, phénomène supposément dangereux. Alors, quand je dis en devenir, évidemment, ça va de prévenir la personne là-bas au fond qu'il y a un début de flamme quelque part, enfin il y a une lumière bizarre. Donc là, le devenir, il renvoie à une certaine immédiateté. Jusqu'à, évidemment, la prévision catastrophique par essence, c'est-à-dire la plus naturelle du monde, le météorite, qui revient régulièrement, et qui donc, en 2047, touchera la Terre et réduira à néant l'humanité. Voilà. Et donc, quand vous lancez l'alerte en disant « en 2047, un météorite va heurter la Terre », évidemment, qu'est-ce que vous faites comme type d'opération ? Immédiatement, vous avez cet énoncé qui est dirigé vers le futur, que vous cherchez à déréaliser. C'est-à-dire, un météorite touchera la Terre en 2047 si nous ne faisons rien. Et si vous lancez l'alerte, évidemment, vous impliquez au récipiendaire légitime ou illégitime de l'alerte qu'il faut agir afin de prévenir les conséquences de cette catastrophe, voire même l'annuler en tant que telle, l'annuler, puisqu'on peut éventuellement lancer des fusées, faire comme dans les films hollywoodiens, changer la trajectoire de la Terre, enfin, je veux dire, on peut tout imaginer en tant que telle. Et donc, c'est une dimension qui est absolument essentielle, c'est-à-dire que l'alerte et la catastrophe sont potentiellement liées par un rapport qui est assez étrange, c'est-à-dire que si les alertes réussissent, la catastrophe n'a pas lieu. In fine. Exemple, le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000, pendant 5 ans, les informaticiens du monde entier ont mobilisé pour dire la catastrophe va arriver si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien. 1er janvier 2000 arrive. Que s'est-il passé ? Eh bien, personne ne le sait. Il n'y a à peu près aucune étude rétrospective sur qu'est-ce qui s'est passé 1er janvier 2000 et que se serait-il passé si nous n'avions pas agi. Alors, je prends les deux exemples du météorite et du bug de l'an 2000 pour illustrer évidemment une gamme qui est toujours présente. C'est-à-dire que l'alerte est quelque chose qui n'a pas à être vrai en tant que tel. C'est-à-dire, si je vous dis « demain, il peut se passer ceci », je n'affirme pas que cela se passera, par exemple. Ou je peux dire « ça se passera sous telle et telle condition ». Ça se passera dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, à un moment donné. Par exemple, la pandémie grippale, elle va arriver, on ne sait pas quand. Enfin, elle arrivera un jour. Donc, il y a un rapport entre ces mécanismes d'alerte et puis la catastrophe, qui sont des rapports compliqués, qui vont de l'annulation la plus totale, si nous prenons toutes les mesures pour lutter contre, jusqu'à ensuite affirmer que finalement, peut-être, il n'y avait rien. Est-ce que le bug de l'an 2000 aurait pu exister ou pas ? Les informaticiens vous disent, oui, bien sûr, ça aurait fait des catastrophes, les centrales nucléaires auraient pété, les ascenseurs, les hôpitaux, ça aurait été une catastrophe absolue, bon, peut-être. Jusqu'à, évidemment, l'événement supposément naturel qui, lui, a lieu, entre guillemets, de toute façon, c'est-à-dire tous les ans, il y aura des ouragans dans la zone Caraïbe. Ça, c'est de l'ordre des choses qui arrivent, mais qui, du coup, perdent aussi leur réalité de catastrophe en tant que telle, mais appartiennent, on va dire, à l'ordre naturel du monde, à la chose qu'on prévient de différentes façons, dont on s'accommode en tant que telle, un peu comme le chômage ou d'autres catastrophes de la vie économique. Et donc, ce qui nous a intéressé, c'est sous quelles conditions l'alerte est émise ? Par qui ? Quelles sont ses modalités temporelles, les phénomènes qu'elle vise, son type de tangibilité ? Et comment est-elle reçue ? Et par qui ? Et pourquoi faire ? Et le coup du météorite que je vous disais tout à l'heure, si vous dites juste « ça va heurter la Terre en 2033 », évidemment, il ne se passe pas grand-chose. Si vous vous adressez à la NASA, à l'Agence spatiale européenne, que vous avez derrière vous des photos, des trajectoires, des astronomes qui vous disent « oui, 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 il est possible, il y a 25% de risque que », etc. On peut imaginer qu'il y a toute une série d'événements institutionnels, politiques, collectifs qui vont avoir lieu et qui vont éventuellement empêcher cet événement. Ensuite, si le météorite passe à côté ou si on dit « finalement, excusez-nous, on s'est trompé », évidemment, il y aura une critique qui va naître. Les milliards d'euros qui ont été dépensés là-dedans, alors qu'il y avait des choses bien plus importantes en tant que telles. C'est la deuxième caractéristique qui est importante, évidemment, c'est qu'une alerte, comme une catastrophe, n'arrive jamais seule. Elle est toujours dans un panel de catastrophes, d'alertes, de risques qui sont, si j'ose dire, disponibles. Disponibles pour en faire un travail politique ou disponibles pour se réaliser ou ne pas se réaliser en tant que telles. Vous avez évité la voiture, mais finalement, ce qui se passe après, le camion vous est tombé dessus. C'est exactement la même chose d'un point de vue politique, c'est-à-dire vous choisissez la tuberculose versus autre chose, versus le paludisme, par exemple. Et en fait, c'est le premier qui ne se réalise pas, c'est le deuxième qui se réalise. Vous choisissez la pandémie grippale contre Ebola. Vous avez comme ça, sans arrêt, un panel, et ça fait partie du travail des historiens, des politistes, des sociologues, de montrer comment des sociétés choisissent certains risques, choisissent de croire à certaines alertes et à développer des moyens politiques, sociaux, collectifs, pour lutter contre, alors que d'autres sont abandonnés. Faire de 8000 morts sur la route une catastrophe, c'est un travail politique, parce que ce n'est en soi pas une catastrophe, c'est des morts. Voilà. Et donc faire d'un événement, d'une série d'événements, une catastrophe, c'est toujours un travail politique en tant que tel. Et donc nous avons analysé dans ce livre ce travail politique qui a lieu à un moment historique un peu particulier, qui est un moment où on institutionnalise les alertes. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des tas d'institutions, en particulier l'Institut de veille sanitaire en France, qui sont chargées de recueillir, alors c'est la définition légale, tout événement de santé, susceptible de modifier l'état de santé de la population. Donc théoriquement, vous avez des numéros, vous pouvez les appeler en disant, voilà, telle chose est susceptible de modifier l'état de santé de la population, ils sont censés écouter. Bien évidemment, vous imaginez qu'ils ne peuvent pas faire ça. Humainement, c'est difficile, même pour une institution. Et donc, il y a encore une fois, à chaque fois, des mécanismes de sélection, de choix, de priorisation, d'abandon, d'oubli aussi. C'est-à-dire, on oublie les choses. Le dossier de l'amiante est un dossier de l'oubli avant tout. Et c'est un oubli qui n'est pas simplement un oubli collectif et politique, qui est aussi un oubli individuel. Quelqu'un s'est battu dans un bâtiment. Je dis quelqu'un parce que c'est quelqu'un de proche, donc je ne le nommerai pas. S'est battu dans un bâtiment, s'est mobilisé dans les années 70 contre l'amiante, c'est important, etc. Puis il a vécu pendant 20 ans dans ce bâtiment, il a totalement oublié la présence de l'amiante. Et elle ressurgit comme ça d'un seul coup. Ce qui m'amène à une critique, mais je la ferai tout à l'heure, sur perception du risque contre représentation du risque. Et donc ce qui est important à saisir, c'est qu'évidemment, une catastrophe, c'est d'abord un travail politique. Ce travail politique va peser non seulement sur le pourquoi du comment, comment on ne l'a pas évité, quelles alertes n'ont pas été entendues. Donc tout un mécanisme rétrospectif qui vise à imputer des responsabilités, faire un travail d'apprentissage, etc. Et un travail prospectif qui vise éventuellement à dire si elle est reconnue comme catastrophe et que les acteurs sont d'accord sur le fait qu'elle est par exemple répétable, ou qu'on peut en apprendre des choses, à des modifications institutionnelles. Et parmi ces modifications institutionnelles, les plus, sans doute les plus célèbres aujourd'hui, c'est le développement de mécanismes de veille, tant que tel. J'en prends juste un exemple pour conclure. Ce sont les fameuses cartes de Météo France. Donc, vous avez tous les soirs, donc, rouge, orange, noir, vert, etc. Et donc, vous avez un travail sémiologique absolument extraordinaire pour dire, voilà, on a inventé des cartes de veille, mais qu'est-ce que les gens vont comprendre et comment est-ce qu'on peut les rendre utiles? Donc, est-ce que orange, c'est vraiment dangereux? C'est un peu dangereux? Ou en fait, c'est pas dangereux du tout? Est-ce qu'il faut mettre du rouge à chaque fois ou pas? Et si on a mis trop de rouge et qu'on a empêché les gens de rouler, après, ils sont pas contents, etc. Et donc, ce travail-là, en tant que tel, c'est vraiment un travail continu qui est lié à une opération anthropologique essentielle, qui est celle de la vigilance. C'est-à-dire que collectivement et surtout individuellement à titre de mammifères et d'animaux vivants, nous sommes vigilants à certaines choses et pas à d'autres. Et la question, c'est quels sont les dispositifs qui nous renvoient à cette forme de vigilance qui fait que nous allons prendre garde à des dangers potentiels et d'autres, au contraire, vont être totalement oubliés, passés sous silence. Voilà. Vous faites attention dans la rue quand vous sortez votre téléphone portable, j'en ai pas, c'est pour ça que je dis ça. Et puis d'un seul coup, voilà, quelqu'un va peut-être vous dire, c'est bien de faire attention à la voiture, mais le cancer du cerveau, tu y as pensé? Et on change du coup radicalement d'univers en changeant les systèmes de vigilance associés, parce que collectivement, nous décidons qu'un certain nombre de dangers doivent être pris en compte, qu'il existe des mesures efficaces pour en éviter soit la réalisation, soit les conséquences, alors que d'autres, finalement, sont laissés soit aux appétits, aux envies, aux désirs, aux intérêts individuels, aux collectifs, ou simplement à la vie ordinaire qui, comme chacun sait, se termine par la mort.
Merci bien. Donc avant de passer à vos questions, j'aimerais qu'on approfondisse peut-être deux ou trois points ensemble. C'est en particulier cette notion de risque établi politiquement, enfin de catastrophe établie politiquement. On sait que, par exemple, effectivement, il y a des lois qui font que, ou des règles de fonctionnement qui font qu'une catastrophe est classée catastrophe naturelle. Enfin, un événement est classé catastrophe naturelle. Est-ce que c'est à ça que vous faites allusion? J'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que c'est une élaboration de l'idée de catastrophe associée à certaines comptabilités, par exemple le nombre de morts sur la route, comme vous l'avez dit, alors que, par exemple, d'autres catastrophes, mais là qui sont plus mondiales, comme le nombre de morts liés au paludisme, n'est pas classé ou considéré ou répété souvent en tant que catastrophe mondiale sur laquelle il faut se mobiliser absolument. Donc, comment fabrique-t-on ce genre de notion? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Et est-ce que c'est récent, cette fabrication de la notion de catastrophe?
On peut sans doute remonter, les historiens des 18e le montrent très bien, bon, évidemment à Lisbonne, à 1715, qui est le grand tremblement de terre, et la question de l'action de Dieu versus autre chose, et de la compréhension de cet événement. Mais le travail politique, effectivement, vous l'avez évoqué, c'est intéressant, c'est la catégorie qui est tout à fait française et intéressante de catastrophe naturelle, qui en fait renvoie à un travail politique qui est entre guillemets aujourd'hui invisible, qui a consisté au début des années 80, suite à un certain nombre d'événements climatiques, à mutualiser un ensemble de risques dits naturels sous l'égide d'un dispositif assurantiel qui s'appelle le dispositif CatNat. Et ça consiste en fait, tout à chacun a une multirisque habitation, enfin sauf les SDF évidemment. Toutes les personnes qui sont dans une habitation sont censées avoir quasiment tous une multirisque habitation. C'est-à-dire une assurance qui couvre un certain nombre de dommages domestiques, d'incendies, dégâts des eaux, etc. Et en fait, une partie du prélèvement des primes va à un fonds catastrophe naturelle. Et donc, il y a une socialisation, en fait, de la catastrophe par ce biais-là, où on va dire, voilà, à partir du moment où l'État dit qu'il y a une catastrophe naturelle, l'indemnisation a lieu sous telle et telle modalité, des trucs compliqués, ça ne veut pas dire que les gens ont leur argent facilement et tout ce que vous voulez. Mais là, il y a un dispositif de socialisation du risque qui fait de la catastrophe naturelle, effectivement, un événement régulé, socialisé, autour de cette question de l'indemnisation, et qui est, entre guillemets, invisible aux yeux des Français. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous, que quand vous avez une multirisque habitation, vous avez payé, etc. Donc c'est un type de travail politique. Il y a d'autres travaux politiques, évidemment, qui consistent effectivement à faire d'un événement ou d'une série d'événements une catastrophe, ce qui est plus ou moins évident. Évidemment, dans le cas de Katrina, voilà, une espèce de dévastation, voilà, le surgissement de l'événement, qui est tellement tangible qu'évidemment, personne ne peut y échapper en tant que tel. Sauf qu'il faut des caméras, des journalistes, des formes d'informations diffusées, parce que sinon ils le savent à Nouvelle-Orléans, mais ailleurs vous n'en savez strictement rien, ce qui est déjà un minimum. D'autres types d'événements, effectivement, demandent une mise en série, donc les morts sur la route, c'est typique, une mise en série, les accidents domestiques, les viols d'enfants, enfin à peu près tout ce que vous voulez, pour faire exister d'un seul coup ça comme risque et éventuellement comme catastrophe. C'est-à-dire quand vous montez à l'étape catastrophe, là, c'est que vous êtes arrivé, vous êtes passé souvent par l'affaire ou par le scandale, vous êtes arrivé à un tel niveau que voilà, ça nécessite une mobilisation collective, forte, non seulement de réparation, mais éventuellement d'évitement à l'avenir. Et on a ce travail-là d'un côté, et de l'autre côté, on a un travail, au contraire, d'invisibilisation progressive. Aujourd'hui, en France, on peut estimer qu'une part importante des cancers sont liés à l'activité professionnelle. Et on l'a vu dans le cas de l'amiante, des annonces de dizaines de milliers, voire de 100 000 morts sur une longue durée. Donc vous faites immédiatement une catastrophe, 100 000 morts. Vous voyez, Katrina à côté, c'est de la rigolade en nombre de morts. C'est vraiment rien. Bah, le problème, c'est que ça n'existe pas si vous ne faites pas ce travail politique de rassemblement des séries, de rassemblement des causes, et où vous allez pouvoir désigner les pouvoirs publics, le patronat, un certain nombre d'entreprises, comme étant responsables, non seulement sur le plan juridique et sur le plan moral, mais au-delà, sur le plan social, avec ce travail qui va faire exister cette chose comme étant catastrophique.
Mais est-ce qu'il y a un rapport direct entre le nombre de morts, par exemple, puisque c'est un indicateur quand même de l'effet de ces catastrophes sur l'humanité, est-ce qu'il y a un rapport entre le nombre de morts et cette sensation ou ce classement dans les catastrophes? On n'a pas l'impression qu'il y a une relation directe.
Le problème de l'alerte, c'est que justement, le nombre de morts n'est pas le nombre de morts. C'est-à-dire, vous êtes en juin 1996. L'affaire de la vache folle, je dis ça pour les plus jeunes, le scandale de la vache folle a explosé en Angleterre, où le gouvernement a reconnu qu'il y avait une possibilité de transmission de la maladie animale, donc de l'animal de la vache, à l'humain. Vous avez un article qui paraît dans une des plus prestigieuses revues de biologie et qui dit « Le nombre de morts liées à l'épidémie de la vache folle sera entre 67 et 176 000. Alors déjà, le journal Le Monde, suivant une dépêche AFP, en fait, n'avait pas compris
que c'était... C'était pas 67 000.
Voilà, oui. Avait compris, donc avait titré 67 000 à 176 000. Donc là, vous titrez ça, évidemment, tout de suite, c'est la catastrophe. C'est-à-dire un nombre de morts aussi important, on ne sait pas qui, donc tout à chacun est potentiellement touché, puisque, sauf les végétariens purs et durs, et encore, il ne faut pas qu'ils aient mangé des bonbons, machins, et trucs, etc. Et donc, cette prévision apparaît. 10 ans plus tard... Vous avez un nombre de morts qui se compte par centaines en Angleterre. Et donc, ce qui était une catastrophe est présenté comme tel, finalement, entre guillemets, se dégonfle, avec les effets en retour de critiques, c'est-à-dire, pourquoi vous avez annoncé ça, théorie du complot, alors on voulait nous faire croire que les Anglais ont essayé de récupérer des sous, voire simplement, erreur cognitive collective, qui fait qu'on devrait être plus attentif, avoir des meilleurs systèmes de détection, être capable de faire de l'épidémiologie mieux, etc. etc. Et donc, ce qui est important de saisir, c'est que même le nombre de morts, entre guillemets, réel, n'est pas un indicateur suffisant, parce qu'il renvoie au moins au nombre de morts potentiels dans d'autres catastrophes, dans d'autres séries si nous n'agissons pas, et parce qu'il y a évidemment d'autres indicateurs, par exemple de nature économique, c'est-à-dire qu'à la Nouvelle-Orléans, évidemment, le tissu économique met plus de... Enfin, les morts sont enterrés rapidement, les blessés sont éventuellement soignés. Bon, on est aux États-Unis, donc c'est compliqué, il faut qu'ils puissent payer. Mais voilà, l'activité économique à Nouvelle-Orléans... je ne sais pas aujourd'hui si elle a repris au même niveau qu'avant, mais elle demeure quand même, elle a demeuré pendant plusieurs années extrêmement faible. Et donc là, vous voyez, on a un autre type de comptabilité qui renvoie à votre question antérieure, c'est-à-dire catastrophe naturelle, où là, on dit le problème essentiel, c'est l'indemnisation, la reconstruction du tissu social associé, des maisons, des canaux, de l'électricité et tout ça. Et donc, par l'argent, on arrive finalement à réparer ce qui apparaît du coup comme une catastrophe moindre par rapport à d'autres événements sur lesquels il n'y a pas cette forme de réparation.
Par rapport à ces mécanismes que vient de nous expliquer Didier Torny, Romain Huret, est-ce qu'aux États-Unis, il y a les mêmes procédures? Est-ce que la notion de catastrophe naturelle a le même sens que chez nous? Et quelles sont les conséquences en fait, des différences qui peuvent exister?
Il y a une spécificité américaine, je pense que c'est le seul pays au monde qui dispose de cela, c'est la notion de « act of God », d'acte divin, qui est une catégorie assurantielle. Si vous avez pris l'avion aux États-Unis, si vous avez un retard, la compagnie vous dira « vous allez être indemnisé uniquement si c'est un acte divin, act of God, si Dieu est responsable ». Donc une catastrophe naturelle. À ma connaissance, alors je ne suis pas spécialiste des catastrophes, je ne crois pas que dans d'autres pays, c'est inscrit dans la loi, hein, c'est un dispositif d'assurance, c'est-à-dire qu'on vous remboursera votre billet d'avion si c'est un acte divin, donc c'est une catastrophe naturelle avec tous les guillemets qui s'imposent. Sinon, on est dans des dispositifs assurantiels identiques, hein, c'est-à-dire une mise en place de dispositifs, même s'ils n'existent pas, parce que nous sommes aux États-Unis et le rôle de l'État est moindre, il n'existe pas ces mécanismes de compensation comme en France. Et c'est l'un des grands enjeux qui a expliqué les débats après Katrina, hein, c'est-à-dire le remboursement des dégâts causés par les assurances, qui était très très compliqué, un enjeu extrêmement difficile. Non seulement, je vais parler des plus pauvres, mais déjà en grande partie pour la classe moyenne, il y a eu toute les assurances ont essayé de jouer un certain nombre de clauses, etc., pour ne pas rembourser. En France, c'est le cas aussi, mais je crois qu'on a des dispositifs de garantie plus forts qu'aux États-Unis. Ceci étant dit, moi, les gens sur lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire les plus pauvres et les plus démunis, les plus vulnérables, n'ont souvent pas d'assurance. Donc, en quelque sorte, il y a leur non-départ est rationnel. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Tout ce qui est là, c'est leur maison. Tout ce qu'ils possèdent, c'est la maison. Leur vie se résume à 2-3 blocs autour de leur propriété, de la maison. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. De toute façon, ils ne sont pas assurés. Donc, si la maison est détruite, il faudra la reconstruire. Il y a un cas extrême dont je parle dans le livre, c'est un toxicomane qui était dans un centre de désintoxication au moment de l'ouragan et qui reste dans le centre de désintoxication. Le problème, c'est que le centre est détruit et que donc il n'y a plus aucun papier et il est incapable de prouver son identité. Je l'avais rencontré à la Nouvelle-Orléans et lorsque la FIMA a mis en place des politiques d'indemnisation pour les plus pauvres pour qu'ils puissent survivre, cet individu n'avait aucune preuve de son identité.
La FEMA, peut-être que vous pouvez nous rappeler.
La FEMA, j'en ai parlé tout à l'heure, l'agence en charge des catastrophes naturelles. C'est elle qui a été chargée après coup d'indemniser, enfin d'aider. On donnait une somme quotidienne aux, aux citoyens pour survivre. Et le problème, c'est qu'il y avait des gens comme ce toxicomane que j'ai croisé qui n'avaient aucune identité, qui n'avaient pas de papier, qui n'existaient plus, qui n'étaient... Et là, on voyait bien l'administration, enfin les logiques assurantielles, qui sont des logiques bureaucratiques, étaient confrontées à quelque chose qu'elles ne connaissent pas, à savoir le sans-papier, la personne qui n'a plus de papier, qui est incapable de prouver son identité parce que plus de famille. Et donc, c'est simplement des amis qui pouvaient dire qu'en effet, il était à la Nouvelle-Orléans, il habitait dans telle rue, etc. Donc, on était sur des formes orales de reconnaissance de l'individu qui était... qui ne figurent pas dans les dispositifs d'assurance tels qu'ils sont mis en place par les compagnies privées et les compagnies et par l'État américain. Dernière chose, peut-être par rapport à ce qui a été dit, c'est sur la comptabilité. Je pense que, comme il a été dit précédemment, la catastrophe est quelque chose de très très subjectif. Hein. C'est une notion, on l'a assez montré, qui est en grande partie construite, hein, qui peut, on décide, les pouvoirs publics vont décider ce qui est ou non catastrophe. Et on voit que dans le cas de Katrina, ce n'est pas forcément le nombre de morts. Je dirais que s'il y a un scandale, ce n'est pas du tout lié à l'ampleur des morts et à l'ampleur des blessés dans la ville ou dans l'État de Louisiane. Je crois que c'est plutôt lié à l'inaction des pouvoirs publics et au scandale civique, en quelque sorte, que la catastrophe révèle. Un exemple très, très intéressant, il y a eu très très peu de débats sur le nombre de morts aux États-Unis, ce qui est pas tout. En France, par exemple, lorsqu'il y avait eu la poussée de chaleur, il y avait eu un certain nombre de débats très importants d'experts sur le nombre de morts, et puis ça disait quelque chose, le nombre de morts. Là, on ne sait même pas aujourd'hui combien il y a eu de morts exactement à Nouvelle-Orléans, il n'y a pas eu forcément de commission, ça n'a pas intéressé beaucoup les pouvoirs publics et les citoyens. Mais par exemple, quelque chose qui a beaucoup gêné, qui a créé de forts débats en septembre, en octobre 2005, c'est l'utilisation du terme de réfugié. Et on voit les Afro-Américains qui vont être très sensibles à ça, et signer des pétitions contre les journalistes, contre les hommes politiques, pour dénoncer l'utilisation de ces termes-là, le terme de réfugié, en disant qu'ils ne sont pas des réfugiés, qu'ils sont des citoyens américains à part entière, et que ce n'est pas parce qu'ils vivent désormais au nord de la Louisiane ou dans l'État du Texas qu'ils sont des sous-citoyens. Mais ça renvoie, l'utilisation du terme, hein, renvoie à des problématiques qui sont très anciennes, une fois de plus, sur les questions de citoyenneté, et qui sont très sensibles au sein de la population américaine. Et notamment, vous vous souvenez peut-être de l'élection de 2000, hein, l'élection de George Bush en 2000, où il y avait eu un problème dans l'État de Floride, où les républicains avaient empêché un certain nombre de gens qui devaient des contraventions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Ils avaient mis en place des dispositifs pour... lorsque vous votez, en fait, vous devez... aux États-Unis, vous pouvez être contrôlé à l'entrée du vote. Et si vous n'avez pas payé une contravention, vous êtes arrêté pour payer la contravention. Et donc, on avait mis en place, les républicains, pour empêcher que les électeurs noirs afro-américains aillent voter, avaient mis en place toute une série de dispositifs de police, de forces de police, dans les villes républicaines, autour des lieux de vote, pour empêcher les citoyens d'aller voter, notamment les citoyens noirs, et beaucoup d'associations afro-américaines, militants pour le droit de vote des Afro-Américains, s'étaient insurgés en disant qu'on avait des formes de ségrégation très subtiles, hein, mais on empêchait les gens qui n'avaient pas payé une contravention d'aller voter. Et lorsque le terme « réfugié » est utilisé, la violence, hein, de la réaction des Afro-Américains, une fois de plus, s'explique par ses antécédents, hein, c'est autour des questions de citoyenneté. Donc pour répondre et pour conclure, je crois que la catastrophe est quelque chose de très très subjectif et que chacun, j'ai essayé de le dire dans le livre en multipliant les points de vue, hein, sur le vécu de la catastrophe, qui peut varier énormément d'individu à l'autre et qui est très, comme il a été dit précédemment, qui est aussi lié à ce que les pouvoirs politiques décident d'en faire.
Alors, par rapport à ce relativisme, on peut aussi, vous n'en avez pas parlé, faire référence au principe de précaution, enfin du moins à la version mal interprétée du principe de précaution, parce que c'est en général pas du tout ce que ça n'est pas du tout ce que ça signifie, mais c'est comme ça qu'on l'utilise. Et ça peut avoir comme conséquence un petit peu la même chose que pour la vache folle, mais plus récemment avec la grippe H1N1, où là aussi on a dépensé quand même 1 milliard d'euros pour se prémunir contre une catastrophe annoncée et qui ne s'est pas produite.
Alors, le principe précaution, c'est vraiment très intéressant. En fait, il faut partir du nucléaire, parce que c'est l'interprétation dont vous parlez, évidemment, est très liée à cette idée que le risque zéro n'existe pas, les gens veulent leur risque zéro, etc. Bon, c'est des dossiers, on voit très bien aussi dans le cas de Katrina, où quand même, on attribue évidemment au peuple toujours de l'irrationalité, des formes de méconnaissance, de troubles cognitifs divers et variés, etc. Les élites, elles, pensant évidemment très bien. Et donc, dans les années 70, il faut se rappeler qu'à un moment d'intense combat antinucléaire, que disaient les ingénieurs EDF ? Les ingénieurs EDF expliquaient que une centrale, c'est zéro risque. Plus exactement, 10-9. Donc négligeable. Vous êtes 30 ans plus tard, eh bien, les ingénieurs EDF disent, bien sûr, nous ne pouvons jamais dire qu'un accident n'aura jamais lieu. Et donc, vous avez ici un renversement du rapport à l'incertitude de la part des instances les plus légitimes, techniquement et politiquement, parce que EDF, c'est encore à la fois l'État et puis la puissance technocratique, les corps, les X-Men et tout ce que vous voulez. Et donc, on a là un renversement qui est très lié à cette histoire de précaution, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui très peu, on va dire, de personnes en position d'expertise technique qui ne laissent aucune place à l'incertitude. Donc vous avez tous ces avis dans l'état actuel des connaissances. On a toutes ces formes qui font exister l'incertitude, même à bas bruit, même à niveau minimal, de la part, encore une fois, non pas de militants radicaux, qui sont marginaux, etc., mais de la part des instances centrales, qu'elles soient en matière scientifique ou en matière politique. Et donc ce renversement, aujourd'hui, est porté par l'idée de la précaution. Alors l'idée de la précaution, il a été utilisé, par exemple, par Bernard Kouchner, lorsqu'il a décidé d'arrêter la vaccination, de suspendre, pardon, et pas d'arrêter, la vaccination dans les collèges, la vaccination anti-hépatite B, le 1er décembre 1998. Il a dit par précaution. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit par précaution ? On dit, j'ai pas beaucoup de billes, j'ai pas des billes suffisantes, normalement, pour que vous soyez d'accord avec moi pour prendre une mesure, mais considérant l'ampleur potentielle des dégâts, considérant les bénéfices associés, considérant qu'il s'agit d'une décision provisoire, je la prends par précaution. Et donc ça, c'est une notion qui s'est répandue dans le champ très très loin, hein, puisque le gouvernement le gouvernement de François Fillon l'a largement utilisé, par exemple, pour les délinquants. Par précaution, un délinquant sexuel qui sortirait à bout de 15 ans, eh bien, nous allons mettre en place un dispositif médical, une machin et tout, et on va demander aux médecins de certifier qu'il n'y a aucun risque. Évidemment, les médecins psychiatres ne disent jamais ça. Et donc, comme il y a un risque, eh bien, on va le garder au frais pour éviter que de nouvelles petites victimes soient tuées par cet horrible monstre. Et donc, cette idée, c'est vraiment un rapport à l'incertitude qui a été modifié, un rapport à la science et à, on va dire, à ces fluctuations, la science et la technologie en tant que telle. Et donc, il y a un renversement, c'est-à-dire c'est maintenant l'incertitude est prise en compte directement et on retrouve des vieilles logiques qui étaient des logiques de prévoyance. C'est-à-dire, au nom de quoi pourrait-on dire que les mesures mises en place par les différents gouvernements de droite à partir de 2004 contre la perspective pandémique sont mauvaises ? Eh bien, le problème, c'est exactement comme l'alerte. Vous ne pouvez pas la juger rétrospectivement. Il faut la juger au moment où, en disant, si on n'avait rien fait et que ça avait été la catastrophe, que se serait-il passé ? Que n'aurait-on dit ?
Avec la grippe H1N1, c'est justement, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vacciné et il ne s'est rien passé. Donc on a eu là, contrairement au bug de l'an 2000...
Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts.
Il y a eu très peu de morts par rapport à ce qu'on craignait.
Exactement. Voilà le point.
Pardon, et par rapport donc au plan qui avait été mis en place, voilà. Qui était lié à ce qu'on craignait.
Voilà. Si vous voulez, c'est ça qui est essentiel et on retrouve ça dans les phénomènes naturels. C'est-à-dire, quel est l'horizon d'attente que vous avez créé en prenant en compte des alertes, des prévisions, de la prospective. Et du coup, vous allez évidemment juger l'événement par rapport à cet horizon d'attente. Et donc, dans l'ouvrage sur Katrina, on voit bien que l'année d'avant ou deux ans avant, il y avait un ouragan qui était arrivé. Et puis, hop, au dernier moment, il était passé à côté. Et donc, vous avez créé un horizon d'attente nouveau qui est, OK, il vient sur nous, mais peut-être peut-il changer de trajectoire. Et donc, la chronologie du type de mesure, la modalité des messages, le niveau d'alerte associé va prendre en compte cet événement antérieur et va créer un nouvel horizon d'attente qui est, il faut vraiment qu'on soit sûr pour pouvoir annoncer l'évacuation des personnes. Et donc, vous allez créer du coup une urgence associée ensuite, puisque au lieu d'avoir 3 jours, vous n'avez plus qu'une journée ou une demi-journée. mais vous êtes plus rationnel puisque vous avez attendu d'avoir plus d'informations. Et donc, c'est cette tension qui est permanente entre être capable, en fait, de créer un horizon d'attente donné et à ce que les événements suivent cet horizon d'attente, avec un problème essentiel qui est que si vous faites dans l'état actuel des connaissances et si vous faites varier l'horizon d'attente en permanence, eh bien, évidemment, là, on a très vite des troubles cognitifs énormes et une perte, évidemment, de confiance dans les messages officiels. C'est-à-dire, si vous dites « Ah, ça va avoir lieu, mais non, pas encore, si, en fait, ça revient, etc. », vous criez, vous la figure classique de crier au loup, et donc on a une perte qui est absolument énorme. Et donc, l'un des problèmes du gouvernement et de la ministre de la Santé de l'époque a été de coller, effectivement, à l'horizon d'attente tel qu'il avait été dessiné dans les années avant avec la mobilisation internationale, l'OMS, etc., et de s'en décaler, en fait, très tardivement, ce qu'on lui a reproché. Sauf que, là encore, il y a une fenêtre d'incertitude qui est à la fois scientifique, technique, épidémiologique, politique, etc., qui est, bon, regardez, pour le moment, les cas montent, oui, d'accord, il n'y a pas beaucoup de morts, peut-être qu'une dose de vaccin, c'est suffisant, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là ?
Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que même le personnel médical ne s'est pas fait vacciner, ce qui est quand même assez ultime comme situation par rapport à un risque qui faisait l'unanimité quasiment en France.
Pour vous répondre, c'est très simple. Pourquoi le personnel médical ne s'est pas fait vacciner ? D'abord, une partie s'est fait vacciner. C'est parce qu'en situation normale, le personnel médical, hospitalier en tout cas, et de ville, doit aussi se faire vacciner. Tous les ans, théoriquement. Quand je dis « doit », ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation forte de l'État. Ils ne le font pas. Vous avez 20% des gens. Donc, on pouvait déjà savoir, tous les sociologues de la Terre vous auraient dit, on sait qu'ils vont avoir du mal à se vacciner en tant que tels. Pourquoi ne le font-ils pas et pourquoi ils le font en ville ? C'est parce qu'évidemment, pour les médecins hospitaliers, qui sont rarement âgés de plus de 65 ans, qui, s'ils sont médecins, sont en général relativement en forme, la grippe, ce n'est pas un risque pour eux. C'est un risque double. D'une part, éventuellement, pour leurs patients liés à des infections nosocomiales, et d'autre part, pour le service, au sens où si vous avez moins de médecins, vous pouvez traiter moins de gens. Et donc, on est dans une situation où on demande aux gens de se vacciner sur la base d'un risque altruiste. Vous rajoutez le caractère, entre guillemets, expérimental du vaccin, les questions sur les adjuvants, la mobilisation des syndicats infirmiers. Et c'est pas qu'en France, je vous rassure, à Hong Kong, en Angleterre, en Italie, c'est exactement la même chose. C'est « mais pourquoi on devrait se vacciner ?» etc. Et donc, voilà la raison pour laquelle les gens ne sont pas vaccinés. Pour les médecins hospitaliers, la vaccination antigrippale n'avait pas de sens particulier en termes de protection dans ce cas particulier, alors que c'est une situation qui est pour eux ordinaire. Tous les ans, on leur demande de se vacciner et tous les ans, 80% d'entre eux ou 75% d'entre eux ne se vaccinent pas. Et bah, de temps en temps, ils font une grippe et puis de temps en temps, ils n'en font pas. Donc, on est dans une situation qui est ordinaire.
Parce que c'était effectivement ce côté altruiste qui était mis en avant par le gouvernement pour justifier l'acte de vaccination. Et ceux qui sont en contact avec les patients, professionnellement, ne l'ont pas fait. C'est quand même perception du risque et de l'action vis-à-vis d'un risque. Aux États-Unis, cette notion, est-ce que le principe de précaution existe ? Est-ce qu'il y a un équivalent ?
Bien sûr. Avant de répondre à ça, juste une anecdote en écoutant quelque chose, une anecdote qui est grave dans le cas de Katrina et en écoutant ce qui a été dit sur les dispositifs d'alerte, comment est-ce qu'on prévient la population. Le dimanche matin, donc la veille de l'arrivée de Katrina, enfin le jour même de l'arrivée, le responsable du National Hurricane Center, qui est le centre d'observation des ouragans, comprend que ça y est, c'est le big one qui arrive. Et il a écrit un livre très intéressant où il dit il doit écrire un texte qu'il doit envoyer à toutes les agences de presse dans le pays. Il cherche ses mots parce qu'il ne sait plus quoi dire. Qu'est-ce qu'on va dire dans une suite américaine, si vous connaissez les États-Unis, où l'alerte est permanente, où vous avez des dispositifs d'alerte parce qu'il neige, parce que les écoles sont fermées ou parce qu'il pleut. Donc, on est dans l'alerte permanente. Et là, dimanche matin, le président est en vacances, l'administration est en vacances, c'est la rentrée pour beaucoup d'Américains. Il doit trouver les mots. Comment annoncer cela ? Et il va écrire un très, très long texte que j'ai en partie traduit, mais vraiment le lire intégralement, c'est très intéressant. Où à la fin, il parle d'apocalypse. Il va très très haut en disant attention, tout va être détruit, c'est là, tout le monde va mourir. Enfin, un texte et c'est tellement dramatique que les agences de presse refusent de le passer en disant c'est pas possible. Il a trop bu, il a un dimanche matin difficile, c'est pas possible, c'est une erreur, c'est une blague. Donc elles ne le diffusent pas. Et autre chose dans le principe de précaution, pour convaincre George Bush que ça s'est réellement produit, parce que lui-même habitué à ce genre de choses. C'est la fin août, début septembre, c'est hurricane season, la saison des ouragans. Les agents, les membres de National Hurricane Center font des films, font des vidéos que j'ai pu consulter. Et les vidéos, elles sont faites comme les films hollywoodiens. Mais on est en temps réel. Hein, on est deux jours après, on est le mardi matin. Les agents du National Hurricane Center, pour faire comprendre à George Bush que c'est grave, qu'il se passe réellement une catastrophe, la ville est inondée, puisque l'administration, jusqu'au mardi soir, refusera d'annoncer que la ville est inondée, hein, alors qu'elle est inondée depuis 24 heures, la ville, hein, donc de prendre les dispositifs nécessaires. Donc on fait un film avec un dispositif hollywoodien, avec de la musique, etc., pour montrer que c'est vrai, que ce qui se passe est vrai, et pour que le président, enfin, accepte l'idée qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se dérouler dans les rues de la ville. Pour le principe de précaution, je vais faire bref parce que ça, je vais reprendre ce qui a été dit, mais là on voit bien comment on a basculé d'une sorte d'extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on a basculé d'une espèce de léthargie politique qui a été celle de beaucoup d'administrations depuis de très nombreuses années aux États-Unis, à un principe de précaution qui a été érigé en dogme par l'administration Obama et par la FEMA depuis que le président Obama a été élu. Et désormais, le moindre ouragan un peu dangereux, alors là, je ne sais pas si vous avez vu Irène fin août, mais il y a eu dans tous les États évacuation des populations, les gardes nationaux qui étaient prêts à intervenir. Enfin, on est vraiment là dans l'application, le président lui-même étant très présent, allant de ville en ville, etc. Les journalistes eux-mêmes ont leur propre dispositif de catastrophe. Enfin, on est dans le principe de précaution absolue. Pour des raisons, je dirais, en quelque sorte, enfin, des raisons évidemment politiciennes et politiques, mais comme le disent les mêmes associations qui condamnaient déjà la léthargie politique qu'il y avait avant, plutôt que d'être, parce que ça coûte très cher aussi, ces dispositifs de l'application du principe de précaution, il ferait peut-être mieux de mettre en place l'administration Obama dans le domaine écologique, on sait que c'est un vrai problème à la Nouvelle-Orléans, dans le domaine environnemental, dans le domaine industriel, et il y a énormément d'industries polluantes qui sont en partie responsables de la dégradation des digues, de la dégradation des dispositifs de protection de la ville. Donc il y aurait sans doute des politiques un peu plus virulentes et plus efficaces à faire que d'appliquer de manière un peu suiviste, hein, ce principe de précaution. Qui est désormais la norme, hein. Chaque ouragan un peu sérieux, la ville est automatiquement évacuée, puisque désormais il y a un plan d'évacuation. Donc immédiatement, à chaque fois, il y a eu deux fois depuis Katrina, on évacue immédiatement la ville. Je pense que ça va durer le temps de la mémoire de l'ouragan.
Dernier point, c'est peut-être la responsabilité des scientifiques, qui est de plus en plus souvent mobilisée à différents stades. Des connaissances, mais aussi celui de l'expertise. Et paradoxalement, donc, le politique se retrouve un petit peu dépendant à la fois du savoir, mais aussi de l'avis, qui n'est pas forcément lié au savoir. Et donc, ça crée, ça met le scientifique dans une position à la fois formidable, il est mis en avant, en même temps, avec une responsabilité écrasante, souvent impossible à tenir. Comment vous situez cet aspect-là par rapport à votre analyse des catastrophes, peut-être en commençant par Didier Torny?
Donc il faut se rappeler des années 70, de la Soufrière, d'Aruntaziev, etc., du combat entre scientifiques sur est-ce que ça va péter, est-ce que ça va pas péter, est-ce qu'il faut évacuer ou est-ce qu'il faut pas évacuer. Et donc deux effets qui sont assez intéressants, c'est-à-dire le premier, c'est que oui, on va dire que dans l'espace politique, on va dire la révolution copernicienne qui consiste à dire il y a de l'incertitude, met plus de temps que dans l'espace scientifique, pour lequel c'est une forme naturelle. Un scientifique, encore plus un chercheur, passe sa vie à travailler sur les incertitudes. D'ailleurs, ce qui est certain et connu, ça ne l'intéresse pas de toute façon, donc il travaille sur les incertitudes, sur la production de connaissances nouvelles. Et donc, il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'il y a il nous faut l'avis scientifique parce que là, quand même, il y a des choses qui sont justes et bonnes. Et donnez-nous l'avis. En même temps, contraignez-nous, tenez-nous les mains. Et on a plusieurs éléments dans cette dyade. Il y a plusieurs choses. D'abord, du point de vue institutionnel, on a cherché à les séparer. C'est les grandes réformes institutionnelles des années 90. On dit d'un côté, il y a l'évaluation du risque, de l'autre, la gestion du risque. Donc l'idée, c'est qu'on sépare les deux. Évidemment, dès qu'on a séparé, il faut retrouver des moyens de créer des liens. Ce qui pose un premier problème, c'est-à-dire quelle est la nature de ces liens, est-ce qu'ils sont officiels, officieux, est-ce que c'est de l'informel, est-ce que c'est formel, comment ça se passe? Parce que, comme je l'ai écrit dans un article, une fois que vous avez séparé les deux, si vous voulez, quand le politique ou l'administration cherche à poser une question, Il faut qu'ils soient sûrs qu'elles soient bien comprises. Et si vous n'avez jamais le droit d'aller voir les scientifiques, ils vous répondent à ce qu'ils pensaient être votre question, mais ce n'est pas la question que vous avez posée, en fait. Entre autres problèmes qui sont posés par cette séparation. Donc on a d'abord cette séparation qui, en fait, redonne tout le pouvoir en politique, potentiellement. C'est-à-dire, vous faites vos avis, moi je décide. Le problème, évidemment, c'est d'assumer le coût public et politique associé de ne pas suivre l'avis scientifique. Et il y a des moments où on a vu, par exemple, Jacques Chirac sur les histoires de tremblantes du mouton. Il y a des moments où le politique a dit non, mais les scientifiques, c'est bien gentil, mais à un moment donné, ça suffit. Moi, je décide que... Mais c'est extrêmement rare parce que la puissance aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés de technosciences massives, permanentes, tout autour de nous. Et donc, il est difficile de diminuer la parole scientifique en tant que telle. Mais ces propres scientifiques, prenant de plus en plus en compte les situations d'incertitude, dès que vous regardez les avis, c'est bourré de considérants, c'est bourré de considérations bizarres qui limitent le poids, etc. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait le politique ? On voit bien que dans la plupart des cas, le politique laisse tomber tout ça en disant « les scientifiques ont dit, donc nous faisons ». On peut prendre l'exemple du bisphénol A récent, hein, où le rapport des agences officielles de l'ANSES en un an a changé du tout. Et du coup, les parlementaires ont gagné, ont interdit un certain nombre de choses. Donc on a toujours cette tension entre guillemets ces deux groupes qui sont... Enfin, il y a des circulations intenses entre les deux. Et donc le pouvoir du scientifique est clairement très important et il est recherché, y compris par tous les lanceurs d'alerte qui sont marginaux. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, avoir de la sound science, des gens qui soient écologues, météorologues, toxicologues, tout ce que vous voulez. Mais en même temps qu'on leur fait une place, une part de pouvoir importante, plus il faut rentrer des considérations de véritable nature scientifique, plus les incertitudes sont là. Et plus, finalement, la main est redonnée aux politiques qui n'en peut mais la plupart du temps.
Il y a un contre-exemple tout de même à ce que vous dites, c'est le réchauffement climatique où les scientifiques, d'ailleurs associés à d'autres métiers comme les économistes ou autres sociologues, ont fait un travail de synthèse, de simplification pour que justement le politique n'ait plus qu'à prendre la bonne décision qui est indiqué très clairement. Et là, paradoxalement, ça ne se produit pas parce que c'est effectivement un problème au niveau mondial et que, semble-t-il, c'est là que ça achoppe.
Mais vous voyez que la manière dont ça a été critiqué n'a pas été « nous prenons cette décision », mais ça a été la dénégation, je dis ça sans aucun jugement moral ou sur le fait que c'est vrai ou pas, la dénégation du constat scientifique et la réintroduction de scientifiques.
Pas par les hommes politiques.
Ah, très souvent, la réintroduction de scientifiques dissidents, en tout cas dans le cas américain, c'est-à-dire dans le cas français, on va dire, oui, le réchauffement climatique, c'est important, mais on peut jouer sur tel truc, on prend plutôt telle prévision plutôt que telle autre. Lorsqu'il y a une attaque véritablement de front, c'est vous allez trouver des scientifiques dissidents, vous allez trouver des tas de gens qui vont vous expliquer que, voilà, en fait, c'est plus compliqué, il y a plein d'incertitudes, ou vous allez chercher les fameux courriels pour dire, en fait, la science officielle est officielle, mais ce n'est pas de la science.
Très rapidement, les États-Unis, c'est très intéressant parce que je crois qu'il y a eu des années 40 aux années 70 une croyance très très forte dans le pays à l'expertise, au pouvoir des experts. Et moi, j'ai travaillé dans un ouvrage précédent sur la guerre contre la pauvreté dans les années 60. Et dans les années 60, on était perçus beaucoup d'experts de questions de pauvreté en cheville avec des hommes politiques et des intellectuels. Pensaient qu'il était possible d'éliminer la pauvreté. C'est-à-dire de faire. Leur argument de la preuve, c'était l'opération Manhattan. En disant, pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à l'opération Manhattan, cette mise en commun d'industriels, d'hommes politiques, de militaires, on a réussi à devancer les Allemands, à faire la bombe atomique avant tout le monde. Et donc, on peut faire des projets Manhattan pour tout. Pour chasser, pour les problèmes de circulation dans les villes, pour le cancer, pour la pauvreté. On va mettre ensemble des experts, des hommes politiques, et des intellectuels, et on va résoudre tous les problèmes. Et on a vu un retour extrêmement violent dans le domaine du nucléaire civil, dans le domaine de la pauvreté, dans toute une série de domaines, dans les années 70, où, parce que le pays est un pays où il y a beaucoup d'associations, on a vu les associations citoyennes se multiplier, avec des classes moyennes, souvent très éduquées, dotées d'un haut niveau intellectuel, d'un doctorat, etc., qui ont créé un savoir anti-expert, qui ont fait une contre-expertise. Et depuis 30 ans, pour n'importe quel problème aux États-Unis, on est en quelque sorte dans ce balancier expertise contre expertise, expertise officielle contre expertise, et ça crée de l'incertitude autour de n'importe quelle question. que ce soit les problèmes de congestion urbaine ou les problèmes de pauvreté ou les problèmes de liés aux catastrophes et au réchauffement climatique.
Un peu comme la CRIRAD en France par rapport
au nucléaire.
Au nucléaire.
Mais avec la densité, c'est un réseau extrêmement dense. Le moindre discours de la moindre administration, vous avez dans la semaine qui suit des citoyens, une organisation citoyenne dans le domaine de l'écologie ou du nucléaire civil qui va prendre un contre-rapport montrant les erreurs. C'est extrêmement efficace, ils sont très présents, très dynamiques. J'en ai parlé, ce mouvement de justice environnementale, par exemple. Et qu'est-ce que font les politiques là-dedans? Malheureusement, ça crée de l'incertitude, et les politiques n'aiment pas forcément l'incertitude. Et donc, ils ont tendance à fuir, comme la peste, tous ces débats scientifiques, ces débats d'experts, et à trouver des explications culturalistes permanentes. Je prendrai quelle a été l'interprétation faite par les principaux hommes politiques de Katrina, j'en cite un certain nombre dans le livre, mais c'est de culpabiliser les populations qui sont restées dans la ville. Il n'y a eu aucun débat sur les choix écologiques, les choix scientifiques. Le maire de la ville, Wayne Hagin, qui est pourtant noir, dira aux Afro-Américains, c'est de votre faute. Parce que vous êtes des feignants, parce que vous ne travaillez pas, parce que vous pensez que l'État va tout faire pour vous. Donc voilà ce qui vous arrive. Et ça va arriver à vos enfants, etc. etc. Barack Obama, je ne sais pas si vous avez entendu parler du discours, il y a 2 mois, à la Nouvelle-Orléans et dans d'autres villes du Sud, il a demandé aux Noirs de sortir de leur canapé pour éviter la crise économique et les problèmes actuels des États-Unis. Sortez de votre canapé, hein, en disant, si vous avez des problèmes, c'est parce que vous restez trop, trop longtemps sur le canapé. Je pourrais multiplier tous les élus républicains qui ne croient pas au réchauffement climatique, qui pensent que c'est une invention... la liste est longue. Donc, en quelque sorte, on est dans ce pays qui aime bien le débat contradictoire. Il y a tellement, je dirais, tellement d'informations contradictoires, tellement d'incertitudes, que les hommes politiques, et on l'a bien vu avec l'administration Obama, qui est entourée pourtant de très, très grands experts de questions écologiques, questions environnementales et questions sociales, et qui, dont le résultat est tout à fait décevant.
Voilà, on est arrivé au moment où c'est à vous de prendre le relais et de nous poser des questions, de poser en tout cas des questions à nos deux invités. Monsieur au premier rang, vous avez un micro, je crois qu'il faut que vous parliez dans le micro parce qu'il y a un enregistrement.
Sur ce que vous venez de dire à l'instant, vous savez que Kennedy avait dit, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu les États-Unis, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, hein, en gros. Et si, ne compte pas sur l'État pour t'aider. Alors, c'est la tradition depuis Kennedy, hein, qui avait dit « ne compte pas sur l'État, mais ne te demande pas ce que l'État va faire pour toi, fais-le ». Et la tradition s'est poursuivie, et ce qu'on retrouve même chez Obama, non pas qu'il est pas, il s'est tourné vers les Noirs en disant « sortez de votre fauteuil ». Mettez-vous au travail, ne comptez pas sur l'État et ne comptez pas sur l'aide et sur le pour manger. Allez travailler, remuez-vous. Voilà mon premier point.
Une autre question ? Enfin, une question, parce que là, c'était plutôt une réponse, oui. Si vous voulez, non, si vous voulez commencer, allez-y.
Je pense que l'État existe. Après Kennedy, pouvait dire ce qu'il voulait, mais l'État américain n'a jamais été aussi fort que sous Kennedy, mettant en place des programmes de prévention contre le nucléaire, etc., etc. Donc l'État, enfin, plus existe. Les citoyens, je l'ai dit, ne demandent pas plus d'État, ils demandent un État mieux, plus efficace, c'est-à-dire plus conscient des problèmes écologiques, des problèmes environnementaux. Les débats qu'il y a eu à Nouvelle-Orléans portent là-dessus, précisément, c'est-à-dire sur la manière. Comment construire des digues? Où les construire? Que fait le corps des ingénieurs? Où passe l'argent des contribuables? Donc, c'est des questions très pratiques. Il ne s'agit pas de vouloir plus d'État ou de vouloir de l'assistance. Il s'agit simplement de réfléchir aux dispositifs existants. Et là, dans ce qui se passe depuis une vingtaine d'années dans le domaine de la protection des catastrophes, on a vu se mettre en place une diminution, en quelque sorte, des services publics. C'est-à-dire que ce corps des ingénieurs est devenu de plus en plus corrompu, très critiqué par les savants, avec des politiques qui ne prennent pas assez en compte, c'est très technique, mais les changements climatiques, etc. Donc il y a de vrais débats, je dirais. Il ne s'agit pas d'entrer dans ce débat, plus d'État ou moins d'État. C'est l'État existant, est-ce qu'il n'est pas possible que cet État-là change ses priorités et vienne véritablement en aide au public qu'il est censé servir? Donc je crois que Kennedy aurait été d'accord avec, enfin, Kennedy était d'accord avec cela, en tout cas.
S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez attendre le micro. Je vous remercie.
Si vous me pressez, oui. Je ne faisais une remarque que sur la tradition de ne compte pas sur l'État pour t'aider. Hein, fais-le. Bon, Le problème que vous avez abordé au niveau de Katrina, c'est plutôt de la gestion de cette catastrophe. Elle était prévue. On sait très bien depuis des années qu'un ouragan frapperait. Il frappe n'importe où. Donc sur 200 ou 300 ans, il frapperait une grande ville ou une grande cité. On l'attend, tout le monde l'attendait. Bon, en plus, c'est l'endroit où on savait que les digues, vous savez que la ville est à 2 ou 3 mètres et même plus en dessous du niveau de la mer, au moins 2 mètres en moyenne. Donc on savait que les digues étaient faibles. Ça a été mal géré avant, puisque l'État a refusé d'investir à la demande. Quand je parle de l'État, je parle de Louisiane, qui a demandé l'aide fédérale, qui n'a pas été accordée. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la gestion, mais c'était une gestion, vous l'avez signalé très bien, qui était catastrophique. En fait, au phénomène, à la catastrophe naturelle, était, vous l'avez bien signalé aussi, était liée une conséquence, une très mauvaise gestion d'une situation catastrophique. Mais cette situation était prévisible.
Très bien, je vous remercie pour votre témoignage. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Merci.
Bonjour, je voulais savoir comment les Japonais, eux, ils percevaient le risque et enfin, s'ils avaient le même comportement par rapport à leur situation.
Oui, c'est une question intéressante par rapport justement au fait de savoir que ça va arriver. Les Japonais sont très bien placés pour cela.
C'est un terme que j'aime pas du tout, perception de risque, parce qu'en fait, là, on parle de représentation du risque. C'est-à-dire, c'est quand même deux choses qui sont radicalement différentes. C'est-à-dire, la représentation du risque, c'est un ensemble d'éléments cognitifs qui fait que je pense que c'est dangereux, comme ceci, comme cela, etc. La perception du risque, c'est d'un seul coup, dans cette salle, sentir une odeur étrange, par exemple. Oh, tiens, on dirait du gaz. Et là, vous n'allez pas avoir exactement le même effet que, tiens, si on évoquait le fait qu'il peut y avoir un incendie, où sont les issues de secours. Donc, il y a vraiment deux plans qui sont différents. Donc, du point de vue de la représentation du risque, ce qui est certain, c'est que le Japon, encore plus que les États-Unis, est un pays, évidemment, où la nature n'a pas la même place. Il suffit de voir du Miyazaki pour comprendre ça tout de suite. C'est-à-dire, la nature, elle est féroce. Il y a des événements, non seulement des ouragans, mais des tremblements de terre en permanence. Et donc, du coup, ça génère, évidemment, des systèmes d'éducation, des systèmes d'apprentissage, etc., qui font que les Japonais sont préparés à un tremblement de terre. Ils savent quoi faire, comme les Californiens. Et alors que nous, c'est absolument certain, à Nice, personne n'est préparé à rien. Il y a un tremblement de terre. Personne ne sait quoi faire, comment, où aller. Est-ce qu'il faut aller dans les bâtiments? Est-ce qu'il faut rester dehors? Vous interrogez les gens, ils n'en savent strictement rien. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, à chaque fois, c'est quel est l'horizon d'attente que vous avez créé. L'horizon d'attente que vous avez créé, c'est les digues qui tiennent. Pourquoi? Parce qu'elles font 8 mètres ou je ne sais pas combien. Enfin, voilà. Évidemment, quand ça, après, ça ne se passe pas, vous rentrez dans un monde inconnu. C'est-à-dire, du coup, vous avez généré un monde nouveau dans lequel il y a de l'eau qui monte et vous avez tous ces films vidéo qui sont incroyables. On voit les gens se sauver à 2 minutes près en tant que tel parce que ça monte à une vitesse absolument extraordinaire. Et après, du côté de l'industrie nucléaire, bon, ben là, il est clair que l'événement n'a pas été anticipé en tant que tel. Et même s'il avait été anticipé, la question, c'est comme pour les digues et ce que disait monsieur, c'est... Imaginons que vous avez anticipé ça, est-ce que vous investissez pour un événement qui a une chance ou un risque très faible d'arriver? Je rappelle qu'en France, il y a une centrale nucléaire qui a failli être inondée, au Blayais. Pourquoi? Tempête de 99 plus grande marée. Et c'est là où on a découvert qu'il y avait des joints en plâtre. C'est-à-dire la centrale nucléaire, c'est du béton, ça résiste à l'eau. Oui, mais il y a des joints en plâtre à des endroits. Et le plâtre, soumis à l'eau, ça se désagrège. Et donc, on n'a pas été très, très loin de quelque chose de très proche des réacteurs japonais.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à Fukushima, il y avait eu des visites de l'AIEA, etc., et que la dangerosité était révélée bien avant, et que les choix d'emplacement, la hauteur par rapport à la mer de la centrale, tout cela était quelque chose qui inscrivait de façon quasi mécanique la catastrophe le jour où il y aurait un tsunami.
Oui, mais le jour où? Le jour où peut arriver, bien après la fin de l'exploitation de la centrale. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce que vous faites des prédictions qui n'ont pas de modalité temporelle? Plutôt, la modalité temporelle, c'est celle d'un futur indéfini. Le jour où vous allez mourir, vous auriez bien aimé faire autre chose de votre vie. Bah oui, voilà. Donc qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vivez avec cette perspective à titre individuel en permanence ? Et on le sait très bien du côté des survivants, par exemple, que ce soit des camps, des gens qui pensaient mourir du sida, etc. On a cette forme de vie, c'est-à-dire en gros, c'est le dernier jour, c'est le dernier mois, etc., etc. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau collectif si on pense à la catastrophe en permanence ? Eh bien, il suffit de regarder, par exemple, Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer de Spielberg, le premier, qui est vraiment magnifique. On voit un homme qui vit dans l'imminence de la catastrophe. Alors voilà, là où les autres voient des enfants qui gambadent, lui, il voit une ombre, quelque chose qui passe, etc. Et donc, vivre dans un monde comme ça, en fait, c'est impossible. Je veux dire, physiquement, humainement, institutionnellement. Et donc, on choisit des choses qui sont catastrophiques, et contre lesquelles on a décidé de lutter, et on met en place les moyens, et puis d'autres qui le sont pas en tant que tel. Et donc, à chaque fois, c'est la question véritablement des choix qui sont associés. Voilà, et des risques, on dit, bah, une centrale nucléaire, non, c'est pas possible, on peut pas faire autrement. Et vous avez vu comment Europe Écologie a dit, à l'endroit où il y a un risque sismique, on ferme immédiatement. Et en face, on dit, attendez, ça se passe pas comme ça, c'est pas sûr, quand même, la faille d'Alsace, ça bouge pas tous les jours. Et donc, c'est vraiment cette tension-là qui existe entre cet événement est certain d'arriver, mais on sait pas quand. Et la pandémie grippale, rappelez-vous, il y a une demi-heure, je disais, mais quand même, le milliard d'euros qui a été dépensé, ou je ne sais pas combien, eh bien, cet événement, la pandémie grippale, allait arriver nécessairement. Peut-être pas avec la même intensité. Et peut-être qu'à Fukushima, on aurait pu avoir, entre guillemets, une petite inondation qui aurait démontré la qualité de la sécurité nucléaire japonaise.
Une autre question ?
Bonsoir. Moi, je voulais demander, est-ce que vous pensez que, justement, avec ce que vous avez dit par rapport aux centrales EDF, et en l'occurrence au Japon aussi, est-ce que la crédibilité des scientifiques va être remise en cause à un moment ? Parce qu'on a tout un tas, par exemple, au niveau du réchauffement climatique aussi, on a tout un tas de versions qui se contredisent plus ou moins. Et est-ce qu'à un moment, la crédibilité... les gens vont peut-être en avoir marre d'entendre tout et rien de la part de justement des scientifiques qui ont des doctorats, etc., etc. Et est-ce que c'est pas des pressions politiques ou qui gèrent plus ça qu'autre chose en fait ?
Alors, vous avez au moins deux personnes en face de vous qui ont un doctorat et qui se considèrent certainement comme scientifiques. Il y a des domaines où les sociologues ou les historiens ont des actions sur les politiques publiques. Hein. Par exemple, la politique de la ville sans les sociologues, si vous voulez, c'est pas la même chose, quoi. Et donc, on peut aussi aller chercher des gens de sciences humaines pour leur reprocher des choses. Les historiens, évidemment, toutes les grandes batailles autour du négationnisme, pas du négationnisme, la réécriture de la vérité historique, voire toutes les batailles autour de l'histoire de France, l'histoire coloniale, etc., sont aussi engagées. Hein, je veux dire. Enfin, moi, je ne considère pas que je suis un témoin observateur au-dessus et qui serait comme ça, qui serait capable de juger de mes collègues qui sont en sciences dures, en sciences physiques, sciences de biologie, sciences des matériaux, etc. Alors, le problème, c'est quelle version de la science on a. C'est ça, le problème fondamental. C'est-à-dire, est-ce que la science, c'est sound science, c'est-à-dire une série de connaissances à peu près certaines sur des phénomènes qui font que, eh bien, le modèle ultime, évidemment, c'est pas la physique, c'est l'astronomie. C'est-à-dire, le soleil va se lever demain matin. Ça, voilà. Ça, c'est absolument certain. Les astres, ça bouge pas. Bon, d'accord. OK. Au bout de, je sais pas combien de milliards d'années, alors le soleil sera plus là. Mais sinon, temps court, c'est stable. Ou est-ce qu'on a une vision de la science comme accumulation de connaissances et périmètre d'incertitude qui varie au fur et à mesure du temps, d'apprentissage permanent? En particulier autour de questions comme la maintenance, la question de l'usure, la question des interactions, c'est-à-dire on sait très bien comment A réagit, comment B réagit, mais si on met A et B ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben on ne l'a pas étudié. Et si on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, comme les pesticides par exemple, qu'est-ce que ça produit comme effet sur les corps ? Et donc la question c'est vraiment quelle est l'image de la science associée et quelle place on lui donne dans les choix politiques ? Est-ce qu'on lui donne une place d'information, de certitude et d'incertitude et après ? Il y a des décisions qui sont prises en fonction de formes démocratiques diverses et variées, depuis le ministre a décidé jusqu'à en faire un référendum. Ou est-ce qu'on accorde une plus grande place à la science parce qu'on croit à sound science et qu'il y a des choses qui vraiment sont certaines sur lesquelles il faut agir. Et on voit bien comment le réchauffement climatique est dans un entre-deux. C'est-à-dire, c'est presque certain pour la plupart des gens, et puis pour une partie, non, pas du tout, et vous imaginez les bouleversements associés, et voilà, et vous faites du allègre. Eh bien, le nucléaire, c'est pareil, sauf que la majorité et la minorité ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, voilà, Jean-François Copé peut dire oh, « Au nom de la France, ne négociez pas, vous vous rendez compte, vous êtes en train de détruire notre avenir. » Voilà, et on voit bien comment une majorité, en fait, est plutôt dans les doutes post-Tchernobyl, post-Fukushima, sur quand même ces centrales, les déchets, on n'a toujours pas résolu, c'est dangereux, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement en tant que tel. Et donc, ce qui est intéressant, moi, en tant que sociologue, c'est vraiment ces déplacements de croyances collectives, qui ne sont pas des croyances collectives au sens de la secte, mais qui sont des croyances collectives au sens où, voilà, des éléments tangibles ont été accumulés, des raisonnements, des événements ont été inscrits dans des raisonnements qui font que, ben, finalement, on bascule de certitude à incertitude, voire, et vice-versa. Et ce qui était une certitude hier absolue devient quelque chose dont on peut discuter, puis de quelque chose qui est indiscutable, mais dans l'autre sens, entre guillemets, avec une série de personnes qui demeurent attachées à leur ancien dogme. Et donc, c'est vraiment ça la question fondamentale. C'est pas quelle place on donne aux scientifiques, c'est quelle forme de science, à court publiquement, entre guillemets. Est-ce que c'est une science remplie de connaissances ou est-ce que c'est une science remplie d'incertitudes ?
Juste peut-être une chose. Enfin, moi, ce qui me frappe dans le cas américain, c'est par rapport à cette production d'un savoir scientifique, c'est aussi les lieux de financement. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe, enfin, ce qu'un historien ou un sociologue peut faire, on se heurte rarement à des puissances financières, industrielles, comme un spécialiste des questions écologiques ou des politiques publiques dans le domaine de la protection des eaux va se heurter. Et on voit bien que il y a des lieux de production d'un savoir hein, qui sont très faciles à monter aux États-Unis, des fondations qui sont financées par de grands industriels et qui ont cette force de frappe hein, qui est tout à fait incroyable. Je donne souvent un exemple aux étudiants en histoire. Il y a un cas où un jeune historien a affronté ce lobby industriel. C'est un historien de l'époque coloniale qui a travaillé sur les armes à feu aux États-Unis. Sujet bon, qui n'est pas forcément passionnant, mais il s'est mis à dire que les armes à feu, il n'y avait pas de tradition américaine des armes à feu. Que d'après les calculs qu'il avait pu faire au XVIIIe siècle, lorsque le pays des États-Unis a été créé, il n'y avait pas une nation avec des flingues, etc. Enfin, ça, c'était un mythe inventé par la National Rifle Association, l'association des ports d'armes, pour faire croire que l'Amérique est née avec, chaque Américain est né avec une arme dans les poches. Il s'est heurté, sans le savoir, hein, c'était sa thèse de doctorat, elle a été publiée, etc. La NRA n'a pas du tout apprécié sa thèse et son livre, et donc elle a embauché des historiens. D'embaucher, hein, leur a demandé, voilà, vous êtes historien, vous allez refaire les calculs, vous allez reprendre les archives et vous allez faire toutes les archives existantes avec des centaines de milliers de dollars. Et bien, ce pauvre monsieur qui s'appelle Michael Bearsills, il s'est trompé dans les calculs, il a fait quelques erreurs d'archives et donc c'est devenu la risée de la profession à tel point qu'il a dû démissionner. Tous les prix qu'il avait obtenus lui ont été retirés et maintenant il vivote dans un petit college, une petite université dans l'État de New York. Et c'est vraiment la honte de la profession parce qu'il s'est heurté. Ah, ce qui n'arrivera jamais, j'espère, ou toi aussi, je pense, des gens qui refont vos calculs, qui vous embauchez 3, 4, 5 historiens, sociologues professionnels, qui reprennent votre livre à zéro, qui reprennent vos archives, vos documents, etc. C'est ce qui arrive aux scientifiques américains qui travaillent sur les questions d'écologie, à tous ces profs dont je parlais, qui sont des citoyens hein, dans les associations de lutte contre le nucléaire, qui veulent améliorer la vie à la Nouvelle-Orléans, protéger mieux le fait que les digues protègent mieux les citoyens. Ils sont confrontés à ça, ils sont confrontés à des lobbies très puissants et qui sont capables, qui ont la force de frappe financière et intellectuelle pour répondre très très vite à leur expertise et dire l'inverse. Je crois qu'il y a la moitié du Congrès américain qui ne croit pas au réchauffement climatique, hein, qui pense que c'est une invention de quelques élites libérales. Enfin, ce sont des gens qui sont au poste de décision. Donc vous voyez à quel point je crois que là le savoir scientifique peut être aussi capté par des gens qui ne sont pas forcément des scientifiques.
Une autre question ? Ici.
Oui, à propos des réfugiés, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un nouveau statut qui émerge, celui d'éco-réfugié ? Est-ce qu'il est intégré dans les recherches prospectives ou pas du tout ?
Moi, j'ai pas. Non, je vais faire une réponse générale parce que je suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Il y a une catégorie générique qui a aujourd'hui acquis une légitimité énorme, c'est la catégorie de victime, dont je pense éco-réfugié est l'une des formes. On a acquis pour des raisons sans doute assez compliquées d'exposition publique, de droit, etc. La catégorie de victime aujourd'hui est devenue une catégorie intéressante, pour faire avancer une cause. Donc vous êtes victime de X. Pour faire avancer la cause contre X, c'est assez efficace et ça passe par différentes formes qu'on a décrites dans le livre, que ce soit l'exhibition médiatique, hein, vous montrez les dégâts, les dommages, etc. sur la personne, évidemment le procès, la contre-expertise, enfin il y a différentes formes, mais la catégorie de victime est une catégorie aujourd'hui essentielle dans le sens où être capable de montrer que vous êtes une victime réelle ou une victime potentielle donne un levier politique assez important en tant que tel. Ce qui n'était pas le cas, je parle au moins pour la France et l'Europe occidentale, il y a 40 ans en tant que tel. Puisque, par exemple, les catégories marxistes qui étaient dominantes dans les mouvements sociaux, évidemment, ne mettaient pas en scène les victimes, mais mettaient en scène l'exploitation. Et donc l'exploitation qui crée immédiatement un rapport entre l'exploité et l'exploiteur. Et donc ce n'est pas la catégorie de victime qui était vraiment la catégorie essentielle. Et aujourd'hui, vous avez un nombre d'associations qui se créent, associations de victimes de X, qui est vraiment extrêmement important. Tous les jours, quasiment, il y en a, qui permet de pointer, de faire un travail juridique et de faire toute une série de travail politique qui permettent de, non seulement d'exister, d'obtenir des indemnisations, mais éventuellement de faire avancer des causes, puisque à côté de victimes, très rapidement, vous avez évidemment la capacité de mobilisation afin d'éviter que de nouvelles victimes aient lieu en tant que telles. Je me permets juste, parce qu'à cause de ce que vous avez dit, évidemment, les scientifiques, il y a un élément important qui pèse sur eux et qui est relativement nouveau, c'est les fameuses DPI, déclarations publiques d'intérêt. Et donc le soupçon ne porte pas simplement sur éventuellement des erreurs comme ça, mais elle porte sur la science est produite dans un contexte particulier et ce contexte particulier peut rejaillir sur le résultat. Et en plus, c'est prouvé scientifiquement, puisque les études, par exemple en biomédecine, des études financées par les industriels du médicament et les études non financées par les industriels du médicament ne donnent pas les mêmes résultats en tant que tels. Et donc, la sociologie des sciences, l'histoire des sciences, en fait, en faisant voir que la science n'était pas une construction, voilà, d'une espèce d'esprit pur, etc., mais résultait dans des opérations de financement institutionnel, politique, etc. En fait, aujourd'hui, toute science est potentiellement mise au soupçon de « mais de quel endroit tu parles ?» C'est-à-dire ce que faisaient les marxistes dans les années 60-70, de quel endroit tu parles du point de vue social, sociopolitique, es-tu un bourgeois, tu parles au nom du patronat, etc. En fait, aujourd'hui, c'est est-ce que tu parles au nom de Philippe Maurice, est-ce que tu parles au nom de ton laboratoire qui a des intérêts à ce qu'on croit à telle et telle chose, est-ce que tu parles au nom de ton équipe, au nom de ta propre personne dont tu cherches à faire rejaillir l'importance. Et donc ce soupçon, en fait, d'absence de détachement entre les résultats ou la parole scientifique et son énoncé, est quelque chose qui est relativement constant aujourd'hui, mais qui est évidemment très prégnant dans des domaines qui sont liés au monde industriel ou typiquement, moi, ce que je connais bien, au monde pharmaceutique.
Juste sur... Je parle uniquement de Katrina, parce que je ne connais malheureusement pas plus sur les catastrophes et sur l'utilisation du terme éco-réfugié. Je ne l'ai pas vu apparaître, en tout cas, dans toute la littérature autour de Katrina. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la dichotomie réfugié-victime qui apparaît très, très fortement au moment de Katrina. Puisque pour aller vite, les Noirs sont des réfugiés et les Blancs sont des victimes. Et on a une dichotomie raciale qui est très très forte hein, dans les écrits, dans le discours journalistique, scientifique, etc. Et on oppose d'un côté les Noirs réfugiés, incapables de se prendre en main, incapables de s'activer, qui errent dans les rues à la recherche d'une aide venant du haut, d'hélicoptères, etc. aux victimes blanches, souvent cajuns, donc qui vivent en Louisiane et qui, elles, ont des savent comment aider, connaissent l'entraide, connaissent la solidarité. Et donc, elles s'activent très vite. Alors que le noir reste indolent dans la ville, les blancs cajuns s'activent, cherchent du secours, organisent des secours, etc. etc. Et on voit, et quand c'est choquant ce que je suis en train de vous dire, mais ça, c'est livré tel quel par les médias. On a vraiment ces discours-là. Si vous regardez CNN, si vous regardez les grands médias qui rapportent hein, ce qui se passe dans la ville... C'est exactement ce qui est entendu, hein, ce qu'on entend nationalement. Hein, on a vraiment où les individus réagissent différemment en fonction de leur origine ethnique et sociale. Et j'avais rencontré il y a 2 ans, j'avais fait venir en France un journaliste du Times Picayune, qui est le quotidien local, qui est un journaliste local, enfin qui n'était pas précisément très local. Il couvrait les petits faits divers et les matchs de baseball à la Nouvelle-Orléans et les concerts de jazz, et donc pas du tout habitué aux situations de catastrophe. Et il m'a raconté, lui et d'autres caméramans, journalistes, photographes qui étaient restés dans la ville, ce qui les fait tenir pendant la semaine, et c'est très dur pour eux de tenir et à continuer à exercer leur profession, alors qu'ils ont perdu, ils ne savent pas où est leur femme, leurs enfants, etc., c'est précisément ce discours-là. C'est-à-dire qu'ils entendent, ils arrivent à capter des choses comme cette dichotomie, les bonnes victimes blanches et les mauvais réfugiés noirs. C'est en entendant cela qu'ils vont se battre pour pouvoir... dans la ville, c'est très compliqué. Ils doivent trouver des lieux où écrire, où envoyer l'information, où appeler. Enfin, c'est extrêmement compliqué, mais c'est ce qui va les motiver. Enfin, toute la semaine, c'est pour casser ce discours-là, ces stéréotypes raciaux qu'on entend dans le pays pendant la semaine et qu'ils ne vivent absolument pas, qui sont du pur fantasme de journalistes ou de quelques personnes qui avaient ces stéréotypes raciaux avant et qui les ont colportés après.
On a le temps d'une dernière question. Oui. Au fond.
Ah, il y en a deux, mais on prend deux, il est 8h30. Non ?
Alors, les deux dernières. Hein ?
Bonsoir. Donc, vous l'avez évoqué, notamment avec l'ouragan Katrina, la presse qui refusait donc, de relayer l'information de la personne qui cherchait donc ces mots, ou avec la vache folle, le nombre de morts qui était prévu. Je voulais savoir, est-ce que, vu que maintenant on donne... une certaine responsabilité aux scientifiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine responsabilité du côté des médias, enfin de la communication en général maintenant dans le relais des informations ?
Alors oui et non. C'est-à-dire moi je suis très 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 contre en gros une vision qui serait les médias exagèrent, etc. En fait les médias reprennent avant tout des informations produites par d'autres. Des éléments officiels en particulier, en particulier en situation de catastrophe, en gros, vous tournez vers des responsables légitimes pour dire alors qu'est-ce qui se passe ? Le type, il n'en sait rien, il dit des trucs, quoi, et vous reprenez en tant que tel. Et donc, ça, c'est quand même les scientifiques en faisant partie, les scientifiques, les experts, les administratifs de haut niveau, les politiques, les responsables humanitaires, enfin, etc. Et donc, les médias, si vous regardez de près, produisent en fait très très peu de discours propres. Évidemment qu'il y a des phénomènes d'amplification, je ne vais pas les dénier, mais ils sont liés en gros à... Il y a deux éléments qui peuvent... le premier, c'est, on va dire, à des échelles de légitimité préexistantes. On en a parlé à l'instant, quoi, voilà. Donc vous renforcez des échelles de légitimité préexistantes, que ce soit dans la tour d'un discours ou dans ses émetteurs. Ou alors le surgissement d'événements qui font qu'il y a un renversement. Et je prendrai juste un petit exemple, c'est le Mediator. Et la figure de Irène Frachon. C'est-à-dire le Mediator, donc je vous rappelle, gros scandale, donc d'un seul coup, le médicament qui a tué plein de gens, qui en fait servait à rien depuis le début, etc. Le laboratoire Servier, enfin, bon, toute cette affaire-là. Et vous avez un médecin, donc provincial, femme, condamnée par les tribunaux, enfin son éditeur condamné parce qu'elle avait mis un sous-titre « Combien de morts » dans son bouquin, etc., qui devient d'un seul coup la figure centrale et légitime pour parler du dossier du Mediator. Et donc là, vous avez eu, lié à l'événement et la manière dont il a été travaillé, à la reconnaissance du nombre de morts, aux témoignages de victimes, etc., un renversement complet, et où d'un seul coup, la parole d'Irène Frachon devient une parole d'or, non seulement pour le Mediator, mais en gros pour la pharmacovigilance, pour tout un tas de dossiers autour, dossiers sur lesquels je travaille par ailleurs, comme le dit Stilben, etc. Et donc là, vous avez eu vraiment un renversement et le rôle des médias a consisté effectivement à achever ce cercle de légitimité autour de cette personne qui sinon n'aurait pas été connue. Mais là, vous avez un effet assez classique, c'est-à-dire elle a dit la vérité un an avant tout le monde, on l'a poursuivie en plus, donc c'est vraiment la parfaite victime qu'on transforme en porte-parole de la vérité. Et donc du coup, il n'y a plus aucun soupçon, c'est la scientifique pure. C'est-à-dire celle qui a agi au nom des victimes, qui a agi contre sa carrière, etc. Et donc ça, c'est toujours un bon moyen en situation de catastrophe de gagner de la légitimité, c'est de montrer en fait que vous aviez tout à perdre. Et si vous aviez tout à perdre, et que vous avez perdu même en partie parce que vous n'avez pas été entendu, etc., évidemment, la légitimité en retour, lorsque le monde s'est reconfiguré, devient maximale. Mais les médias qui produisent, surtout sur ces sujets, on va dire des éléments propres, c'est extrêmement rare. En tant que tel, ça arrive parfois parce qu'il y a parfois des journalistes d'investigation qui arrivent à trouver des éléments, etc. Mais en général, c'est simplement qu'ils ont changé de source et qu'ils font ce travail d'amplification.
C'est très important que vous ayez rappelé la définition des médias qui sont en fait effectivement de transporter l'information d'un point à un autre en la déformant le moins possible ou en la rendant la plus intelligente possible.
Je vais dire la même chose, donc je vais pas. Je crois que, enfin, j'ai vu. Il ne s'agit pas d'accuser les médias d'avoir fait quoi que ce soit au moment de Katrina. C'est certain qu'ils vont colporter les rumeurs, amplifier des phénomènes, des stéréotypes ethniques, etc. Mais dans le même temps, on va avoir une série de médias qui vont faire un excellent travail. J'ai parlé de journalistes locaux pour qui ce sera très difficile puisqu'ils ne sont pas prêts à ces situations extrêmes. Hein. Quand vous couvrez les chiens écrasés, vous vous retrouvez à gérer, à observer des morts, etc. C'est très, très difficile humainement de continuer à travailler. Certains vont le faire de façon tout à fait remarquable. Il y a d'excellents articles dans le journal local, le Times Picayune, sur les rumeurs qui apparaissent très vite, hein, sur la manière dont ces rumeurs ont été construites, ont été instrumentalisées par certains hommes politiques, etc. Donc je reprendrai ce qui a été dit précédemment. Donc je vais faire court.
Une
dernière question. Vous avez beaucoup souligné le lien entre la gestion politique dans les catastrophes naturelles. Et on voit bien qu'on a une dichotomie en termes d'échéance de pensée avec le politique qui est plutôt une pensée à court terme, avec tout ce qui est échéance électorale, et tout ce qui relève des catastrophes naturelles qui est plutôt une pensée à long terme, ne serait-ce que par leur occurrence ou par la comptabilité quand on parle de loi des séries. Et donc, qui et par quels moyens réconcilier justement cette vision à court terme qui est celle du politique et cette vision qui est plutôt une vision à long terme et qui est celle de la gestion des risques?
En fait, le politique, bon, je sais que nous sommes en ambiance sarkozyste, donc on a l'impression comme ça d'une espèce d'urgence permanente et compagnie, mais la politique reste du moyen et du long terme. Si vous voulez, la révision générale des politiques publiques s'est conçue dans des lieux, à Bercy, par des ingénieurs des mines et d'autres, et c'est des formes de pensée politique architecturées de moyen et de long terme. C'est-à-dire quand on dit, on va
sauf face à une catastrophe.
Ben non, mais de la même façon, c'est-à-dire le nucléaire, on bâtit le nucléaire, on sait qu'on le fait pour 50 ans en tant que tel. Et face à des catastrophes, alors là il faut faire un détour.
Ben, à Tchernobyl, on n'a pas les mêmes délais de réflexion pour prendre un plan d'action.
Ça dépend, encore une fois, la question, c'est, on revient à la grippe, c'est-à-dire la question de la préparation. C'est-à-dire quelles sont les formes d'événements pour lesquels vous avez des dispositifs, entre guillemets, de graisse, qui sont à disposition. Bon, évidemment, nous, en France, on a une longue tradition, on pense aux pompiers. Vous entretenez toute l'année des types à rien faire, quoi. Je veux dire, ils bossent deux mois, quoi. Alors, évidemment, en fait, après, vous les utilisez pas pour les feux de forêt, mais pour tout, les inondations, les trucs et les machins. Voilà, donc si on disait demain, façon américaine, bon, on va prendre des intermittents du feu, si j'ose dire, pour deux mois, voilà, avec un contrat, et les types, ils arrivent, ils louent des camions, je sais pas où, et puis voilà, on se débrouille très bien comme ça, et ça coûte moins cher. C'est formidable. Et donc, la pensée politique, en fait, est une pensée qui demeure... une pensée de moyen terme. C'est-à-dire, il ne faut pas du tout se laisser avoir par des ministres de bas étage qui font des... Voilà, je veux dire, il y a des pensées de moyenne durée qui demeurent derrière. Et je trouve que l'ouvrage de mon voisin le montre tout à fait de manière remarquable. Comment des politiques, à partir du milieu des années 60, avec des milieux juridiques, etc., font ce travail qui finalement aboutit à Katrina au bout de 40 ans. Et donc ça, il faut pas... Voilà, le politique, c'est aussi de la longue durée. Et la question, c'est quels sont effectivement les risques ou les catastrophes auxquelles nous faisons face dans la longue durée. Et on voit, je veux dire, le changement climatique, c'est pas que des scientifiques. C'était que des scientifiques, ils n'arriveraient jamais à faire le GIEC. C'est rempli d'intelligence politique, d'administration, d'expertise sous différentes formes, etc. C'est le combat entre certaines politiques et d'autres politiques, avec des industriels qui sont variables, qui varient au cours du temps, c'est-à-dire Esso et Total, si vous voulez, ils font à la fois du pétrole et tout ça, mais ils ont déjà préparé l'après en tant que tel. Et donc, c'est plutôt la question de quelles sont les formes démocratiques, parce qu'en fait, le problème n'est pas tellement, à mon avis, le politique ou le scientifique là, mais c'est plutôt le peuple. C'est-à-dire... quelles sont les formes démocratiques auxquelles on peut réfléchir pour participer à ces choix de longue durée avec des éléments qui sont relativement irréversibles en tant que tels. Et ça, je pense que c'est vraiment cette question-là qui est fondamentale. C'est-à-dire on élit des gens pour une durée limitée, on a quelques référendums, mais comment est-ce qu'on peut collectivement, effectivement, prendre une série de choix de manière informée, technologique. Alors, il y a eu ces formes, hein, conférences de citoyens, etc., qui sont imparfaites, qui sont compliquées. Mais c'est comment faire ressurgir dans le débat politique ces questions de longue durée. Vous avez un exemple qui est assez remarquable, qui est la loi 1991 sur les déchets nucléaires. Je reviens au nucléaire parce que c'est toujours la très longue durée. Donc les déchets de haute activité, donc ces machins-là, on en a pour 10 000 ans minimum. Donc, vous voyez, hein, vous partez moins 8 000 à peu près, le début néolithique, hein, d'accord ? Donc, vous faites pareil, mais en avant, donc 10 000 ans. Est-ce qu'on peut faire le pari sur l'existence d'une institution quelconque sur 10 000 années ? C'est super compliqué, etc. Et donc, depuis 1991, il y a de l'argent qui est mis en recherche et développement et autres sur comment on gère ces déchets. Il y a trois voies, stockage en plein air, enfouissement et puis la transmutation. Et donc là, on voit comment les politiques... ceux de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, des scientifiques, EDF, etc., gèrent ce dossier de très longue durée. Où est le peuple ? Nulle part. Personne ne s'intéresse à cette question, si ce n'est évidemment des militants antinucléaires, si ce n'est des vignerons qui, d'un seul coup, à qui on dit, vous savez, là, va y avoir... Mais c'est juste un site expérimental. Hein. Mais sous vos vignes, il va y avoir du nucléaire. Et le type, il dit, moi, je ne crois pas au danger. Mais comment je vais vendre mon champagne si on sait qu'il y a du nucléaire en dessous ? Si on était dans les années 30, il aurait mis champagne au radium et il l'aurait vendu encore plus. Comme on est dans les années, comme on est au 21e siècle, évidemment, c'est plutôt une mauvaise image.
Vous preniez l'exemple des déchets. Si on prenait celui de du démantèlement des centrales, on aurait peut-être une autre vision de la politique à long terme, puisque apparemment
c'est plus court terme. Mais là encore, ça a été prévu. Le politique a prévu.
C'était prévu, sauf que ça ne se réalise pas.
Non, mais ce qui était prévu, c'était les mesures budgétaires qui pesaient sur EDF. Bon, comme on le sait, EDF a utilisé une partie de ces éléments pour faire des achats à l'étranger et autres, enfin du jeu comptable. Voilà, ce qui est aussi
une certaine... tournement, c'est pas du...
Non, c'est compliqué, c'est-à-dire c'est voilà, ils sont pas condamnés, voilà, des astuces comptables, et puis ils peuvent dire, oui, mais on peut le rebasculer dans l'autre sens, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment la parole des techniciens, c'est-à-dire... Le démantèlement, ça veut dire tant de temps, on sait faire, comme ci, comme ça. Évidemment, le problème, c'est l'épreuve des faits. C'est-à-dire, en gros, Enilis et centrale expérimentale, on voit qu'on y arrive pas vraiment, je ne sais pas comment dire ça, ou ça met plus de temps, c'est plus compliqué, il y a des problèmes.
C'est pas terminé.
Etc. Et donc, oui, c'est une vraie question. La question, c'est d'avoir le retour de connaissances autour de ça, non seulement chez les ingénieurs EDF, dont on aura bien besoin pour faire du démantèlement, mais parce que si c'est pour passer à Areva, voir des boîtes ensuite qui rachètent, des fonds de pension qui rachètent Areva, je ne suis pas sûr que ça soit bien fait. Voir le coffrage, le fameux coffrage de l'EPR fait par Bouygues, où, ils ne sont pas capables d'en faire correctement. Et donc, la question, c'est comment vous réinsuffler dans le débat public et auprès de nos concitoyens, des formes de connaissances, de débats, d'organisation, d'arguments, de solutions autour de ces éléments de longue durée, voire de très longue durée, à l'échelle, effectivement, d'une élection qui se déroule sur 5 ans.
Très bien, merci beaucoup.
Ah bah, allez-y.
Pardon ?
Ah non.
Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je n'avais pas l'impression. Non,
juste brièvement. Si. Pour répondre à votre question, parce que c'est une question que les militants se posent aussi, les militants dans les associations dont je parlais, dont j'ai plusieurs fois parlé, c'est un problème pour eux très important. C'est-à-dire comment convaincre le politique ? Et leur idée aujourd'hui, c'est, tous ceux que j'ai croisés dans la Nouvelle-Orléans disent, le seul moyen, c'est l'argument économique. Je pense qu'en France, c'est la même chose. Hein. L'idée que... Les politiques sont très sensibles à cet argument-là, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'argent des contribuables et comment est-ce qu'on le dépense. Et donc le moyen, c'est d'arriver à prouver, une fois de plus par les études scientifiques, que ça coûtera moins cher de prévenir, moins cher de préparer les populations que d'affronter le risque après coup. Katrina, c'est l'ouragan qui a coûté le plus cher aux États-Unis. On a plus de 1 000 milliards de dollars, enfin, j'ai oublié des chiffres totalement incroyables en termes de... Et beaucoup de gens disent... Si on avait simplement prévenu, si on avait simplement mieux réparé les digues, on avait prévu un plan d'évacuation de la ville, par exemple, avec des bus qui n'étaient pas en zone submersible, comme c'était le cas, enfin, des choses très simples qu'on peut assez rapidement décider collectivement, on aurait évité un tel désastre et qui a un coût pour la collectivité, un coût considérable pour la collectivité locale, la collectivité nationale, puisque les individus ont été indemnisés. Donc, pour répondre à votre question très directement, hein, je crois que c'est les associations qui militent pour davantage de prévention pensent aussi qu'en utilisant l'argument économique, ils vont rallier à eux les politiques qui sont très sensibles à cet argument-là.
L'économie qui, elle, peut aussi donner lieu à des catastrophes qui ne sont pas naturelles, mais qui sont parfois présentées un peu comme des phénomènes naturels et dont il faut se méfier. Merci beaucoup à tous.